et bienvenue sur Bagropoint pour un nouveau podcast consacré à une nouvelle saga mythique du jeu de combat. Et cette semaine, dans ce podcast, on va parler tout simplement de la saga Samurai Spirits. Oui, Wellcook, je sais ce que tu vas dire, on ne fait pas un podcast par semaine et j'en suis fort malheureux, mais bon.
J'ai rien dit.
Et voilà, comme vous l'entendez, à ma droite, il y a Wellcook, comme d'habitude.
Bonjour à tous.
À ma gauche, il y a TMDJC.
Voilà, qui est tout rouillé, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu.
Ça fait longtemps qu'on s'est vu, dernière fois, février dernier, effectivement. Voilà. Et en face de moi, il y a Wael. Salut Wael.
Salut tout le monde.
Et donc vous voilà tous réunis pour vous prendre mari et femme. Donc aujourd'hui on va parler de Samurai Spirits. Alors déjà première question. Faut dire Samurai Spirits ou Samurai Showdown?
Ça dépend à qui tu t'adresses.
D'accord.
Et mais ça me choque pas que tu prennes ou l'un ou l'autre. On va dire que Samurai Spirit c'est la version japonaise et que Samurai Shodown c'est la version qu'on a à peu près partout ailleurs. Je dis partout, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a d'autres endroits du globe en fait où il est appelé Samurai Spirit.
D'accord.
Ouais, non, l'appellation vraiment, là c'est vraiment du VOVF. Il y a pas de nom vraiment plus officiel. Vraiment pas de nom plus officiel
du VOVF.
Ouais, enfin VO et après international quoi.
On va dire.
Donc okay. Voilà. Et c'est un peu d'élitisme de dire ouais c'est que Samurai Spirit. Non, pas sur cette série.
On s'en fout des crétins qui veulent toujours la série en japonais et qui appellent quand même Fatal Fury, mais bon.
pas mal. Alors, Samurai Spirits, donc, on va commencer peut-être par introduire un petit peu le jeu dans son époque.
Oui,
alors,
tout à fait.
Il est sorti quand, entre quel jeu, il a été fait par qui et il a été fait pourquoi?
Alors, je vais essayer de reprendre tes questions dans l'ordre. Quand le 7 juillet 1993. Donc, entre quel jeu et quel jeu? Alors, avant, on a déjà eu du World Heroes. Alors, on a bien évidemment Street Fighter 2, ça on repasse pas dessus. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. On a déjà eu Art of Fighting, on a déjà eu Fatal Fury. Donc, on est vraiment dans l'ère du début des jeux de combat. Au moment où le jeu sort, l'idée... Alors, pour remettre les choses dans le contexte, en fait, SNK, ça fait un long moment qu'ils avaient un projet de faire un jeu qui tournait autour de cet univers. Il y a même d'ailleurs un projet qui sera abandonné, qui reviendra plus tard sous le nom de Last Blade, qui va être l'amorce au départ de Samurai Spirit ou Samurai Shodown. L'idée n'est pas forcément au départ de faire un jeu de combat, mais vraiment en fait c'est l'univers qui plaisait aux développeurs des SNK. Ils avaient vraiment envie de faire quelque chose autour de cet univers-là. Le jeu de combat en 92 devient le système à la mode. En plus, c'est un système qui est relativement simple à développer, entre guillemets, par rapport à d'autres styles de jeu en fait, qui extérieurement demandent moins d'énergie. Ceux qui font des jeux de combat au niveau se rendent compte très vite en fait, finalement, que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais ils sont en train de se dire que voilà, il y a déjà des moteurs qui existent, on peut créer une nouvelle licence assez facilement et on va jouer sur des références. Alors les jeux de référence en fait, vont se faire surtout par rapport aux personnages de Samurai Spirit. SNK en fait développe vraiment un jeu pour les Japonais. On n'est pas du tout en fait l'idée de savoir comment les Américains ou les Français ou etc vont voir le jeu. Ils font vraiment un jeu pour eux.
Mais pourtant il y a des Américains et des Français dans le jeu.
Mais c'est quand même au départ l'idée de base en fait du jeu. Elle tourne autour de ça. Effectivement, il y aura d'autres personnages qui vont venir se greffer. On en parlera quand on sera sur la partie des personnages. Mais on va voir comment les personnages qui ne sont pas japonais sont traités. Il y a pas autant d'énergie qui est mis que dans leur propre référence, on va dire.
D'accord. Et donc tu disais que c'était un projet qui était de longue date. On sait combien de temps ils ont mis avant de le lancer.
Enfin, les premières choses que j'ai lues autour de. Alors, enfin, oui et non, parce que c'est-à-dire que on va dire que c'est des projets qui ont mûri, qui ont évolué dans le temps. Mais la première fois qu'SNK parle de faire quelque chose autour de cet univers-là, en fait, les premières choses que j'ai lues datent de 91. Donc d'accord. on est juste avant la sortie de Street Fighter 2. L'idée au départ était plutôt quelque chose plus proche du RPG en fait que du jeu de combat. Il y aura un deuxième projet qui sera lié à cette partie-là en fait dont on trouve les prémices en 92 et qui sera très vite abandonné en fait pour devenir le fameux
Samurai Spirit.
Ouais, exactement.
D'accord. Alors Samurai Spirit, t'as dit donc 93
7 juillet,
c'est ça.
Sortie arcade
ouais. Bien sûr. Sortie en août si je dis pas de bêtises derrière.
C'est ça, sur console Neo Geo.
D'accord, il y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là, ils ont pas encore fait péter une cartouche plus grosse que les autres, il y a pas
non, d'un point de vue technique, non.
Non.
En dehors du fait qu'il y a eu de la censure à l'étranger, mais ça c'est autre chose.
C'était quand même, ça faisait quand même partie, si je dis pas de bêtises, d'une des premières cartouches à plus de 100 mégas. Je crois qu'il était à 107 mégas, un truc comme ça.
Mais ils n'avaient pas pété leur record. Sur le deuxième, on en reparlera. Oui, c'était la première cartouche à plus de 200 mégas sur le deuxième.
D'accord. Alors, tu parlais de références, donc peut-être qu'on va faire les choses dans le désordre maintenant. On peut peut-être faire les choses dans le désordre, comme vous voulez. Soit on peut parler du gameplay du jeu ou alors parler de son univers. Mais si on parle de son univers, à ce que j'ai compris, on va surtout parler de ses personnages au final de l'ensemble, non ?
Bah, c'est juste que le jeu, il s'appuie beaucoup sur son ambiance. Et son ambiance, elle tourne autour du folklore japonais, donc c'est 18e siècle, si je ne me trompe pas, à l'époque où le Japon avait décidé de se refermer sur lui-même, donc d'interdire l'entrée et la sortie du territoire. Oui, donc les étrangers n'avaient pas le droit de rentrer et les Japonais n'avaient pas le droit de sortir.
Il y avait quelques commerces qui étaient faits avec la Hollande et la Corée, mais le Japon était vraiment sur lui-même à l'époque.
Voilà, d'accord. Donc on est encore loin de ce qu'on appellera plus tard l'ère Meiji.
Ah oui, c'est bien avant.
C'est bien avant. Et donc voilà, donc dans cette ambiance-là, ça se traduit en fait dans toute l'ambiance du jeu, au niveau visuel, dans le rendu graphique, aussi bien des illustrations des personnages que du jeu en lui-même à l'intérieur, ou contrairement à beaucoup d'autres jeux, là, la patte graphique est très prononcée et fait très dessinée. C'est le premier jeu où on a vraiment l'impression que c'est dessiné, le rendu des personnages. Ouais. Il y a aussi l'ambiance musicale qui fait appel à des instruments japonais, le fait que absolument toutes les voix off sont en japonais, même dans les versions internationales.
Oui, je me souviens de ça aussi.
Donc, ouais. L'ambiance japonisante dans ce jeu, japonisante médiévale, est vraiment très très prononcée et ça fait en grande partie son charme.
Est-ce que les speakers, il me semble, même dans les plus récents Samurai Spirit, il y a toujours le Hajime.
Exactement.
Comme ouais. ça. Ils ont gardé cette patte-là, mais tout à fait.
Et plus encore, même le côté vraiment de cette époque-là, où on a le fameux en garde qui est introduit, alors que. Une énorme partie du reste est complètement asiatisant.
Ouais.
Donc ils ont pris le pas. Il y a eu ce parti pris aussi d'amener ces petits éléments, comme on disait, où ils ont pris des petits éléments un tout petit peu internationaux, mais souvent stéréotypés.
Ouais.
Voilà, parce que le hangard, c'est juste un terme consacré dans les combats d'escrime pour annoncer le début du combat. Donc c'est pour qu'il est dans le jeu.
Mais plus... peut-être qu'on peut parler donc de la principale nouveauté, on va dire, de Samurai Spirit. C'est vrai que je l'avais oublié, parce que ça me paraît naturel en fait. Mais c'est vrai que c'est pas un tout petit peu le premier jeu de combat à l'arme blanche au final. Alors, intégralement à l'arme blanche, j'entends.
Voilà, c'est exactement ça. C'est le premier jeu de combat où tous les personnages se battent à l'arme blanche avec un élément très important. L'arme ne fait pas partie du personnage.
D'accord.
Ça, c'est très important. On le verra dans le gameplay, elle aura l'occasion d'en reparler, mais c'est la première fois qu'on se retrouve avec où on dirige un personnage qui lui-même dirige son arme.
Alors après, c'est vrai que c'est le premier jeu où on voit une arme, mais d'un autre côté, quand on voit les personnages se battre, ils n'ont pas cherché à retranscrire fidèlement des techniques de combat ou des styles de combat. Ils ont des armes, mais ils ont pensé le gameplay tel qu'on le penserait dans un jeu de baston comme un autre, avant tout en termes de coups, de propriété et de prise en main générale des personnages, plus qu'en termes de vouloir reproduire des styles D'accord. fidèles à la réalité.
SNK a eu l'intelligence d'arriver à proposer de panacher ce qui existait déjà avant, et là on est obligé de reparler de Street Fighter 2, on verra en termes de gameplay qu'il y a beaucoup de choses qui sont calquées sur le jeu de Capcom, tout en apportant quelque chose de totalement neuf. Je rappelle qu'on est en 93, et ils sont arrivés, ils ont dit voilà, il y a une référence aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas passer au-dessus, ils ont posé des choses qui sont justes, on va s'appuyer sur ces bases-là, mais on va inventer quelque chose de nouveau. Et contrairement aux autres jeux qu'SNK a fait auparavant, où on se rend compte qu'ils étaient complètement dans le... Bon, on copie volontairement Capcom, on améliore des trucs pour dire qu'on est meilleur qu'eux, mais là, Samurai Spirit s'émancipe sous énormément d'aspects, en fait, du jeu de Capcom.
D'accord.
On peut dire, en plus, là-dessus, que en fait, Samurai Shodown, c'est un des premiers jeux qui va rendre, en fait, le gameplay de Street Fighter comme de vraies bases. Ce qui veut dire que même en essayant d'aller bien au-delà de ce qui se fait dans Street Fighter, il y a certaines bases qui ont été créées par Street Fighter. Maintenant, on se rend compte qu'elles sont absolument inamovibles, en tout cas à l'époque.
On ne peut plus s'en passer, quoi, en gros. Enfin, hormis être un outsider, comme on l'a vu dans le précédent podcast sur Virtua Fighter, qui était pour le coup une simulation d'arts martiaux, donc ce que Samurai Spirit n'est pas. Ce que tu dis, c'est qu'on commence à se rendre compte qu'au final, les bases posées par Street Fighter 2 sont un genre et qu'on peut les théoriser et les réutiliser au final. C'est ça, quoi.
Exactement, c'est la création du genre. Je trouve vraiment c'est celle. Voilà, on a fait le chemin du premier jusqu'à arriver là et on commence à vraiment avoir tout le spectre en fait de ce genre-là.
D'accord. Alors, sous quelle forme
Alors.
Pour le poser.
Bah, pour être tout simple, on est vraiment sur un plan 2D. Certaines attaques ont plus de priorité par rapport à d'autres. Potentiellement, on peut utiliser des projectiles pour faire du jeu de zone.
Ouais.
Et potentiellement, on peut aussi enchaîner certains coups sans que l'autre puisse se protéger, donc faire des combos. Donc là, on est vraiment sur la base totale. On y rajoute un peu de chop. Et voilà, on a vraiment, c'est les ingrédients de base. C'est, si on fait autre chose, c'est qu'on ne fait plus vraiment un jeu de combat comme tout le monde l'entend.
Oui, d'accord. Voilà. Ok. Alors, donc je suppose que tu disais qu'il y a tout ça dans le gameplay. On peut peut-être aborder le gameplay à la limite maintenant,
tout à fait, ouais.
Puisqu'on y est. Donc en gros, tu dis, on reprend une formule Street Fighter 2. Donc Samurai Spirit, ce serait un Street Fighter 2 avec des armes. En gros, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça et qu'il y a des choses qui ont été intégrées qui sont vraiment propres à Samurai Spirit et qui s'émancipent quand même un petit peu?
Comment il me pique mes phrases?
Ah bah je sais pas, je pose la question moi. Ils ont pas eu, les gens qui nous écoutent n'ont pas eu la préparation du podcast en amont. Oh, donc,
je vais laisser Wal répondre, il y arrivera mieux quand même.
Alors,
en fait, pour le coup, même sur la dynamique du jeu en lui-même, on arrive à quelque chose où en fait, le gameplay n'est pas axé exactement sur les mêmes éléments que dans Street Fighter. Où en fait, il y a une partie du gameplay Street Fighter qui est énormément accentuée dans Samurai Shodown, à savoir le jeu de zoning et de whiff punish, le fait de punir une attaque...
portée dans le vide.
Voilà, portée dans le vide.
On peut peut-être préciser du coup, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, que le moteur qui a servi à faire ce jeu est celui d'Art of Fighting. Notamment en fait la gestion des zooms, c'est un jeu qui fonctionne par zoom et que les sprites sont plus petits.
En fait, ouais, justement, j'allais mettre une nuance parce que chez Art of Fighting, s'ils ont mis le zoom, c'était pour mettre l'accent sur les personnages au corps à corps qui sont très très forts, enfin très gros, pardon, des personnages au corps à corps très gros, très détaillés et avoir un rendu très impressionnant. Sur Samurai Spirit, les personnages sont aussi très beaux, je les trouve même plus beaux. Ils sont un peu moins détaillés, le zoom est moins violent, mais par contre, c'est vraiment pour mettre l'accent sur la distance de jeu qu'on a un zoom.
En fait, ça dézoome de façon à ce qu'on se rende mieux compte de la distance.
Ouais, tu as exprimé ce que je voulais dire, en fait. Non, je t'en prie, c'est parfait, en plus, tu l'as très bien dit. Quand on dit le moteur est le même, en fait, le moteur de base est le même, parce qu'ils se sont appuyés techniquement sur le même moteur. L'accent du zoom n'est pas effectivement mis au même endroit, les sprites sont plus petits, et comme tu disais, en fait, ça met en avant l'air de combat. En fait, il y a une liberté de déplacement dans Samurai qu'on n'a pas dans Art of Fighting.
D'accord. Et d'ailleurs, en fait, ce zoom est très important à cause de l'ampleur de beaucoup de coups des personnages.
Puisqu'on est sur, en fait, un jeu à armes blanches.
Voilà.
Et c'est là quand même, pour revenir là-dessus, où ils ont quand même réussi un petit peu à mettre certains styles de combat, à quand même les retranscrire un petit peu. Quand on voit, une utilisation à la lance et une utilisation vraiment à une épée courte, le gameplay est sensiblement différent entre les deux.
Ça reste des archétypes de jeu, mais c'est pas le style en combat en tant que tel qui est intégré dans le jeu. C'est clairement ce que je voulais dire.
Clairement. Là.
Donc tu disais, c'est un jeu qui accentue énormément le zoning et le whiff punish. Donc il y a quoi comme...
Peut-être on va commencer juste par les bases. C'est un jeu qui se joue en 6 niveaux de coups. Donc on a 4 boutons sur Neo Geo, comme tout le monde le sait depuis qu'on a parlé de Neo Geo. Donc avec des boutons, on a accès aux coups moyens et faibles, à l'épée et au pied. Et en appuyant sur les deux boutons de poing ou les deux boutons de pied, on a accès à un coup fort. Donc c'est un jeu à 6 niveaux de coups. Ensuite, le reste du gameplay se construit autour des capacités de déplacement des personnages qui sont quand même relativement nombreuses, inspirées un petit peu par Art of Fighting à cause du système de zoom. Donc on a également un dash arrière. Donc un petit saut en arrière pour faire des esquives, s'éloigner, prendre la distance. On a une course pour pouvoir se rapprocher rapidement.
Premier jeu SNK de combat avec la course d'ailleurs.
Peut-être même premier jeu tout court.
C'est ce que je pense.
Et par contre, une des nuances, c'est que c'est même pas un dash arrière qu'on a dans Samurai Shodown. Vu qu'on est dans une zone tellement grande, ils ont vraiment intégré le système de hop arrière en fait.
Ouais.
Qui fait vraiment, c'est vraiment un grand saut vers l'arrière.
Tu fais un bon arrière.
Ouais,
quoi.
C'est un
dégage, bon arrière.
Donc il y a ça sur la base. Donc ensuite, pour ce qui est du reste de la construction du gameplay en lui-même, du pur gameplay. Ma tablette me fait des délires.
Ouais.
Après, ils ont construit autour de ça des personnages, des coups spéciaux. Et donc c'est là où elle reprend la main.
Juste pour rebondir sur ce que tu disais au niveau des 6 niveaux de coups, contrairement à un Street Fighter justement où la différence entre le point faible et le point fort est sensible.
mais il n'y a pas un univers entre les deux. Dans Samurai Spirit, la différence entre les coups faibles et les coups forts sont absolument énormes. L'ampleur des coups forts est démentielle, la puissance de frappe est démentielle, mais on ne peut pas jouer qu'avec les coups forts, c'est pas possible, parce que c'est s'exposer à une punition quasi immédiate.
Parce qu'en fait, au niveau de la logique, elle a été en vrai assez simple. En tout cas, pour les coups à l'épée, on a le coup faible et le coup moyen, d'accord ? Et derrière, surtout, le coup fort, c'est très souvent en fait, un coup porté à deux mains. Mmh. Voilà. Ce qui, donc là-dessus, comme dans la vraie vie, coup porté à deux mains, donc en effet, fait des dégâts considérables. Mais par contre, ils ont intégré un nouveau système qui n'existait pas jusque-là, qui était le fait de... Quand on se prend un coup dans la garde, un coup fort dans la garde, celui qui fait l'assaut voit son épée en fait repartir dans l'autre sens.
Oui, le il y a du
un rebond.
Donc et évidemment certains coups n'ont pas ce rebond, donc qui permettent potentiellement de mettre un peu plus la pression, mais les gros coups et pour que les gens comprennent bien, quand on dit que ça enlève beaucoup, c'est que ça enlève potentiellement des fois moitié de barre.
Ouais, ça m'avait choqué la première fois que j'ai joué à Samurai Spirit, quand même. Tu t'envoies un gros coup et puis boum.
En même temps, un coup d'épée, ça fait pas du bien. Hein.
Ça, c'est sûr. Voilà. Mais bon, après, on a vu plein de jeux d'ailleurs, SNK avec des personnages qui avaient des armes et bon, ils faisaient pas des moitiés de barre. Quoi.
D'ailleurs, dans le jeu, la violence des coups est très bien retranscrite. Hein, parce que tu prends un coup d'épée, bah, t'as une grosse gerbe de sang qui gicle. Ouais.
C'est normal. Au moins dans la version japonaise.
Mmh. Voilà. Ouais, après, c'est des gerbes d'eau ou de. Mmh. De trucs orange ou vert selon
les... Des fois
les...
c'est blanc, ouais, je sais pas trop ce que c'est.
Je veux dire que c'était de l'eau ça.
Ah parce que quand c'est vert tu sais ce que c'est.
C'est de la transpiration.
Voilà. Mais c'est vrai que là-dessus aussi ça fait partie vraiment intégrante de l'univers du jeu. Ça, sur toute la partie sur le sang et qui n'existait pas avant en fait.
D'ailleurs, puisqu'on en est à parler d'ambiance, qu'on fait une parenthèse sur le gameplay, l'ambiance même de Samurai est beaucoup plus sérieuse, même si le jeu n'est pas dénué d'humour. Hein, elle est beaucoup plus sérieuse que la plupart des autres jeux qui sont venus avant. On n'est pas KO à la fin de Samurai Spirit. On est mort, on repart sur une natte.
Bah oui, ou t'es tranché en deux.
Ou t'es tranché en deux. On est vraiment dans l'ambiance de certains mangas dans lequel SNK s'est beaucoup inspiré.
Y a quelque chose de beaucoup plus sombre. C'était dans l'heure du temps aussi, parce qu'à cette époque-là, un duel à l'épée, donc c'est déjà la manière de base de résoudre la plupart des conflits, et l'issue de ces duels était quasi systématiquement fatale, quoi. Ouais. Donc, et c'était pas valable qu'au Japon, dans les autres pays où il y a eu des duels à l'épée qui étaient institutionnalisés, en général, bah, ça s'achevait par la mort d'un des deux gars.
Hein. Ouais. Et c'est vrai que tout le jeu en lui-même est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus violent, même dans les termes, où on entend des personnages dire, voilà, venez, on va aller tuer.
Ah ouais, l'ennemi. Littéralement quoi.
Voilà, tuer, ça parle vraiment de tuer. On n'est pas là pour vaincre, on est là pour tuer. Mmh. Donc voilà, ça amène quelque chose de beaucoup plus, comme je disais, beaucoup plus sérieux. Mmh. Et ça se retranscrit énormément en fait dans les types d'attaques effectuées. Et on a vraiment l'impression que ce postulat de base a fait découler énormément d'éléments de gameplay.
Donc, le fait que ce soit sérieux et que ça déconne pas, ça a influencé la création des éléments de gameplay du jeu.
C'est un ensemble cohérent, en fait.
D'accord.
Ouais, quand on voit l'intention portée dans les attaques, même le type d'attaque utilisée, c'est rarement des attaques comiques où je vais te mettre à part un personnage ou deux qui sont vraiment axés plus sur le fun. Mais voilà, t'as rarement des coups de paix ou des choses comme ça. Ou, voilà. Donc là-dessus, pour revenir un peu plus sur le gameplay, donc comme on expliquait, le fait qu'il y ait des attaques de différentes puissances, elles ont aussi surtout des ranges vraiment extrêmes qui peuvent
pour
varier.
Ceux qui parlent pas anglais, des portées.
Oui, des portées. Merci. Des portées vraiment beaucoup plus grandes selon l'attaque faible ou l'attaque forte.
D'accord. L'attaque faible servait à quoi ? Donc en gros, est-ce que tu peux me donner un exemple de base ? C'est une poke, c'est-à-dire ça sert à titiller un peu l'ennemi, provoquer une réaction ou...
Bah en fait, voilà. C'est vraiment dans ce sens-là. L'attaque faible, l'attaque moyenne, souvent visuellement peuvent avoir un aspect assez similaire en fait entre les deux, et ça permettait en fait de faire certains petits mind games qui fait que quand tu presses un petit peu ton adversaire avec du faible dans le tas, tu mets un moyen dans la garde, lui pense pouvoir contre-attaquer et là tu le baites avec une autre attaque.
D'accord. Ouais,
voilà.
Ouais.
C'est
tout le jeu de Samurai Spirit, de toute façon, c'est un jeu qui est clairement posé sur le zoning. De toute façon, on est vraiment dans un jeu, c'est presque un jeu de stratégie, j'ai envie de dire, ce jeu.
Ouais, et c'est là qu'on se voit aussi que c'était une époque où ils n'étaient pas du tout orientés vers l'Occident. ou avec ce qu'on pouvait se dire, voilà, aux États-Unis, ils veulent jouer de telle ou telle manière, les jeux de catch, c'est comme ça, on va faire un peu comme... Non, non, là, on a vraiment l'impression que c'est dirigé vers le public japonais, mais d'une manière quasi stéréotypée, où ce qui compte, c'est, comment dire, tuer en un seul coup. Réussir vraiment à porter le coup comme il faut au bon moment. C'est, ouais. C'est tout le temps ça, c'est la bonne attaque au bon moment.
Ippon.
Voilà.
Voilà. Et, le point, quoi. Voilà. Tu marques un point.
Et pour le coup, tiens, faudra qu'on revienne là-dessus sur cette notion de marquer un point, mais pour le coup, c'est vraiment plus facile d'accès, en fait, que les jeux qu'on a maintenant. Parce qu'il suffit d'être très vicieux au niveau, au niveau du jeu pour pouvoir embêter même quelqu'un qui joue énormément à ce jeu, parce que c'est vraiment une notion de zoning et vraiment une notion de voilà, je fais attention vraiment à ce qu'il fait, j'ai pas à prendre une comment dire une liste de combos de 27 coups de long. Les combos, la plupart c'est des enchaînements de 3 attaques.
C'est ce que j'allais dire, déjà quand tu as 3 attaques qui s'enchaînent à la suite, déjà enfin c'est que tu as un bon niveau, tu maîtrises bien,
c'est exactement ce qu'on avait dit sur Virtua Fighter, hein.
Non, mais complètement.
C'est exactement la même logique.
Mais j'ai une question donc toute bête quand même sur le. Tu disais donc un débutant par exemple peut quand même ennuyer, donc c'est parce que simplement est-ce que tu pouvais jouer de façon autrement qu'en jouant en zoning, en fait tu pouvais pas rentrer dans l'art dans ce jeu-là. Enfin.
Si, mais tu perds.
Oui, enfin évidemment. Non, mais je veux dire dans en le fait, sens c'est rentable. Enfin, il y a tu peux pas te retrouver au super corps à corps et.
Non, tu peux pas faire vraiment de pressing, c'est ce que tu veux dire, ou voilà, harceler l'adversaire.
Tu peux pas marteler le coup faible, ça servira à rien. Enfin.
Disons qu'en fait, il y a des sortes de setup à utiliser quand on est au corps à corps pour pouvoir après se replacer dans une situation où l'adversaire en fait va essayer de repousser l'assaut. Mmh. Et c'est sur ce moment-là qu'en fait il va vraiment se passer quelque chose dans le round. C'est sur vraiment ce moment-là où on essaye de casser une distance, casser un rythme.
Dans Samurai Spirit, pour apprendre à bien jouer, en fait, il faut vraiment apprendre à lire ce que fait l'adversaire. C'est vraiment on est vraiment dans et quand au sens japonais du terme, on pourrait comparer ça à beaucoup d'autres jeux, mais on est vraiment dans la lecture de ce qui se passe à l'écran. On n'est pas dans le alors je vais placer tel combo, etc. On n'est pas en train d'essayer de briller entre guillemets par des choses qu'on a appris par cœur. Ça ne sert strictement à rien. Il y a vraiment c'est plus proche du jeu de go ou d'échec, en fait. On est vraiment dans l'instant. Il se passe ça. Il y a ça à faire.
D'accord. Peut-être un peu plus, un petit peu plus l'échange martial ou guerrier qu'on a.
J'ai envie de prendre un exemple. Ça ressemble beaucoup à un combat de samouraï. Donc voilà, où vraiment on doit.
En général, il n'y a qu'un seul assaut et c'est celui qui porte l'assaut le premier qui gagne.
Exactement.
D'accord. Donc ouais. Ok. Voilà.
Mais on est en fait, on se retrouve constamment dans cette petite situation-là. Mais même pour mettre un petit coup, pour réussir à placer une petite attaque et faire un petit peu de dégâts, on est toujours dans cette tension super grande de, si je fais pas le bon coup au bon moment derrière, potentiellement vu que j'ai mis mon coup dans le vide, je peux me manger un coup fort, donc moitié de barre en moins. Donc ça crée le fait qu'il y ait un coup très facilement réalisable. Après pour réussir à toucher avec, c'est une autre paire de manches, mais le fait qu'il soit très facilement réalisable, en fait ça apporte une tension vraiment réelle dans tout le combat.
D'accord. Tu vois, dans un Street 4, tu vas avoir l'ultra par exemple. C'est comme si en fait tous les personnages avaient leur ultra tout le temps et qu'il suffisait de le faire avec un bouton fort en fait. Et
là, tu viens de donner envie de jouer à tous les gens qui jouent à Street 4.
Tant mieux, tester.
Mais alors, le jeu n'était pas composé que de coups normaux. Il y avait aussi des spéciaux quand même. Je me souviens quand même de tornades de feu et de trucs pas possibles, etc.
Grosso modo, en fait, il y a les archétypes des personnages qui sont de retour. Le personnage de base est un Shoto. Enfin, il y a des choses qui sont là par contre,
tu veux dire le héros de base, pas le personnage de base,
le héros de base, on va dire que Street Fighter 2 est passé par là et le gameplay grosso modo il est calqué sur quand même beaucoup de références à Street 2.
D'accord. Donc tu as des boules, tu as des projectiles, tu as des espèces de dragons, mais tu as un autre élément qui relève du coup spécial, beaucoup plus original, ce sont les animaux.
Les animaux?
Oui, il y a beaucoup de personnages qui ont en partenaire un animal, donc tu as Nakoru qui a un aigle, ça, ou un faucon, souviens, je sais plus. Galford. Tu as Calford qui a un chien ou un loup, je sais plus.
Qui était jouable dans un des épisodes, je sais plus lequel, mais il était jouable.
Oui, il était jouable tout seul. Je sais pas s'il y en a d'autres dans le premier.
Pas dans le premier.
Non.
Mais voilà, mais donc ça permet de faire des coups spéciaux. Genre, tu ordonnes à ton. Allez, on va dire que c'est ton compagnon, ton fidèle, ton pet,
ton mignon. Go, my minion.
Donc tu peux lui dire attaquer et puis donc il va foncer sur l'adversaire. Mmh. Tu peux parfois interagir avec lui comme le fait Nakuru, où elle s'accroche à son aigle. Elle peut voler un peu avec et elle peut faire des attaques avec différentes variantes en descendant de son aigle, donc qui sont des coups spéciaux aussi. Mm-hmm. Donc tu as un système d'interaction comme ça qui enrichit le gameplay au niveau de ces personnages-là de manière très originale.
D'accord.
Et d'ailleurs, ils sont très bien rendus en plus. Hein. Ils sont aussi bien foutus que les personnages principaux.
D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose à dire avant que je vous pose une question en règle générale?
Bah après, sur le gameplay, on a encore plein de choses à dire. Ouais, en fait.
Après, d'accord. Sur le gameplay, on peut. Il ouais, y a vraiment. Donc,
pose ta question. Bon, bah, en fait, ma question, c'est que vous disiez tout à l'heure en introduction du podcast que c'était un jeu de combat dans lequel on dirigeait des sabreurs qui eux-mêmes dirigeaient leurs sabres. Bah, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette assertion parce que.
En fait, que le que ça sabre veut dire, est une entité indépendante.
Voilà.
Parce qu'en fait, il y a une mécanique de jeu dont on n'a pas encore parlé, qui est le clash.
D'accord. Mais alors, est-ce que vous voulez qu'on en parle tout de suite ou il y a d'autres choses à parler avant et le clash, on y vient après?
Je pense qu'on peut l'enchaîner là-dessus. Je veux dire que l'ambiance même sonore au niveau des armes est extrêmement bien rendue. En fait, l'arme est vraiment mise en avant dans ce jeu-là. Je te laisse...
Non, parce qu'en fait, je ne me souviens plus comment on déclenche le clash. Donc...
très, très simplement, mais tu veux peut-être le dire.
Bah, alors en fait, pour le clash, oui, c'est assez simple et c'est en même temps super intelligent. Ce qu'ils se sont dit, c'est que potentiellement, on a aussi des joueurs qui vont jouer sans être vraiment, sans suivre forcément la voie du samouraï à fond, ouais, parfaitement, et vont peut-être un peu bourriner. En fait, quand on a deux attaques qui se touchent en même temps, il y a un clash qui s'effectue.
Alors, ça prend quelle forme, un clash?
Il arrive de temps en temps que même si le coup n'est pas porté en même temps, en fait, que le CPU soit plus ou moins souple. Le CPU est plus ou moins souple avec ça. Mais
pour être franc, il y a une vraie tolérance parce que si on mettait vraiment la tolérance à zéro, ça arriverait quasiment jamais pour avoir codé ça sur un autre jeu de baston à l'épée. Si on fait ça, ça n'arrive vraiment quasiment jamais.
Oui, ça arrive que dans les doubles counter hits parce que les frames actifs sont ensemble, quoi. En gros, c'est très rare, ça.
Et ce cas-là, c'est une fois tous les 100, 200 matchs. Voilà.
Alors que là, ça arrive assez régulièrement.
D'accord.
Donc le clash, la forme qui revêt, bon, on a les deux adversaires qui sont l'un contre l'autre, arme contre arme, donc qui font un test de force, en fait. Ce qui arrive parfois, moi j'ai fait un peu de combat historique, c'est une situation qui peut se présenter. Donc ils poussent chacun l'arme. Alors le joueur, qu'est-ce qu'il fait? Il bourre les boutons. Et donc c'est celui...
C'est ce que te demande d'ailleurs le CPU, parce qu'il y a même une main physiquement.
Voilà, c'est affiché à l'écran pour t'indiquer ce que tu dois faire au cas où tu douterais de ce que tu dois faire. Et donc celui qui a le plus bourré, en fait, prend le dessus sur son adversaire. Et à ce moment-là, celui qui a perdu donc, l'affrontement, il se retrouve désarmé.
Alors attention, parce que tu peux te retrouver, ou les deux peuvent se retrouver armés, en fonction de comment ils ont bourriné, ou les deux peuvent se retrouver désarmés, ou il y en a seulement un qui est désarmé.
Ah ouais, carrément. Ouais.
Oui. Et donc là, en fait, tu découvres un nouveau pan du jeu où ton personnage peut se battre sans son arme.
Ton personnage peut se battre sans son arme, littéralement.
Littéralement.
Littéralement. Mais
il a aussi accès à trois coups de poing.
Ouais.
Faible, moyen, fort.
Qui souvent, pour la plupart des personnages graphiquement, sont à peu près les mêmes.
Voilà, grosso modo, c'est le coup qu'il avait sans son arme, à peu de choses près.
D'accord.
Donc ça rend le jeu quand même beaucoup plus difficile quand t'as plus ton arme parce que tu perds ton allonge.
Bah, complètement.
Ce qui est un désavantage considérable.
C'est très très vrai dans les premiers Samurai Shodown.
Bah, ça tombe bien, on est dans le premier.
Voilà. on verra par la suite que potentiellement perdre son arme,
ça peut être pas mal.
Bah, ça peut même être provoqué.
On monte dans la tier list.
Voilà, mettons ça de côté.
D'accord, dans le futur, très bien. Voilà. On en reparlera de la tier list dans le futur.
Bon, donc de base, c'était censé être un désavantage quand même pour celui qui n'a pas son arme.
Ah bah,
je crois qu'il perd accès à certains coups spéciaux.
Oui, il y a certains coups spéciaux qu'on ne peut faire qu'avec l'arme. Et surtout, il y a une notion en fait dans Samurai Shodown aussi, c'était de perdre de la vie même quand on se prend des coups en garde.
On perdait de la vie quand on gardait.
Ah, et va parer une épée avec tes mains.
Ah oui, mais quand on n'a plus son arme.
Voilà, donc ce qui fait que voilà, même en garde, à un moment, tu vas mourir.
Ouais, d'accord.
Perdre son arme était un vrai, vrai désavantage.
Alors, après, l'arme était toujours présente sur le terrain.
Pas sur le premier.
Dans le deuxième.
En fait, dans le premier, on perd l'arme complètement, elle disparaît. Et en fait... Là, on est obligé d'introduire en fait un nouvel élément qu'il y a dans ce jeu-là qui n'y a nulle part d'autre, c'est qu'il y a un arbitre pendant le combat.
Il y a même deux personnages, pour être exact, qui viennent se balader. Il y a effectivement un arbitre.
On commence par l'arbitre.
Retour dans les années 80, il y a Kung Fu, etc. Là, hein,
c'est le fameux Kuroro.
Kuroko.
Kuroko, pardon.
Kuroko. Et c'est qui Kuroko?
En fait, c'est le juge. c'est le juge pendant les combats. En fait, quand il y a une attaque qui est portée, si je dis pas de bêtises, une grosse attaque qui réussit à être portée, tu as le juge en fait qui va lever le drapeau. Mm-hmm. En fait, il a deux drapeaux, hein, comme un juge, pour bien montrer que voilà, lui, il a un point.
Okay.
Voilà. Et à la fin du combat, quand il y en a un qui est défait, voilà, il montre qui a gagné.
Ouais.
Voilà. On peut vraiment jamais se tromper là-dessus. Et en fait, quand on perd son arme, donc pour revenir là-dessus, on a un deuxième personnage qui arrive en bicyclette.
En bicyclette.
sur le fond. En fait, c'est une sorte de marchand.
Ouais.
Et en fait, livreur plutôt.
Un livreur, très bien. Un livreur. Il arrive en fait qui rebalance l'arme sur la zone de combat.
Et donc après, tu peux aller ramasser ton arme.
Il faut réussir à la récupérer. Et puis, il arrive pas forcément tout le temps au même timing. Tu peux te retrouver des fois un long moment sans ton arme.
Ouais, en fait,
et il est où le cycliste, putain?
Voilà, au niveau du timing, c'est à partir de 10 secondes. Je crois que c'est entre 10 et 13 secondes. Il y a un delta.
Tu dois attendre 10 à 13 secondes pour que le mec en vélo il arrive et il te rebalance ton arme qu'il a trouvée au bord du chemin, quoi.
Ouais.
Bon, ouais,
le temps d'aller la refaire, le temps de...
Alors ensuite, il faut que tu ailles à l'emplacement de ton arme, que tu appuies sur le bouton et bas en même temps, je crois, pour la ramasser. Et il faut donc que l'autre adversaire te laisse aller le faire,
ouais,
ce qui n'est pas gagné non plus. Hein.
Mmh. Et on oublie un autre détail, du coup, par rapport à ça, c'est que le personnage en question ne fait pas que délivrer ton sabre.
Oui, ah bon, parce que le livreur, là-dessus, Samurai Shodown, quand même, de la vie critique de tout le monde, c'est un des jeux les plus sérieux et les plus carrés qui représente le plus le jeu de combat.
Ouais.
D'accord,
ouais.
Voilà. En fait, le livreur...
Y a-tu Smash Bros dedans?
Oui.
Quoi?
Parce que le livreur balançait, en fait, soit un plat de poulet... soit un poulet bien cuit et qui a toujours été magnifiquement dessiné,
oui,
et qui m'a toujours donné super faim.
Voilà.
Ce poulet-là,
j'aime cet homme.
C'est vraiment
un homme de bon goût.
Super bien dessiné.
Les mecs, putain.
Non, vraiment.
C'est vrai.
D'accord.
C'est
vrai. Et ou une bombe.
Une bombe.
Ouais. Ouais.
Le problème, c'est que si toi tu es à côté à ce moment-là.
Alors attends, donc en gros le mec il arrive et soit il te ramène ton arme.
Ah non, c'est pas une question d'arme ou pas, c'est qu'il peut
passer. Ah, des fois
il passe.
Non, il passe pendant tout le combat, il te balance un bonus ou un malus. Donc soit c'est du poulet, ça te permet de regagner de la vie, je crois pas qu'on les vit. Soit c'est une bombe qui explose et qui blesse les personnages qui sont à proximité.
Et c'est bien les personnages, c'est-à-dire que si les deux personnages sont à côté, c'est tout le monde qui mange.
Donc on a un élément aléatoire qui intervient dans le jeu et qui revêt une importance primordiale dans le gameplay au final. D'accord. Donc on a du Smash Bros dans Samurai Shodown.
C'était une façon peut-être de comment dire.
Non, je
sais pas, de créer du décor dans un jeu qui n'avait pas beaucoup d'interactions, parce que c'est vrai que les combats
il y a beaucoup d'interactions.
Il y a beaucoup d'interactions ce jeu en fait.
Ah, bon, ok.
C'est ça, vu tout. En plus, c'est étonnant parce que vu tout ce qu'on vient de dire qu'il y a dans le jeu.
Oui, il y a déjà beaucoup de choses.
Voilà, on pourrait se dire que en fait au niveau décor, non, au contraire.
Ok. Donc,
par exemple, si tu sais, dans Street Fighter, quand tu arrives en bas de round, qu'il y avait des tonneaux, tu balançais l'adversaire dedans, tu les explosais. Là, quand t'es près de tonneaux, que tu donnes un coup de sable, tu les coupes en deux.
Ouais, mais ça sert à quoi?
Bah, c'est pour l'ambiance.
C'est esthétique.
Ouais. D'accord, ok. J'allais dire, je sais pas, tu coupes les bidons et tu balances tes planches.
Je veux dire, c'est que tu interagis avec le décor, tu vois, il y a quand même une notion d'espace et d'environnement qui existe dans ce jeu.
C'est esthétique, et puis il faut aussi savoir que dans certains niveaux, il y avait vraiment des éléments qui pouvaient cacher le personnage.
Ouais.
S'il y a un niveau comme ça avec une sorte de stèle, le personnage, s'il est accroupi derrière, on le voit plus.
D'accord. Et on sait pas éventuellement les coups qu'il fait. On parlait la dernière fois dans Fatal Fury, des personnages qui pouvaient se cacher. On en revient exactement à la même chose.
Qui allait dans le fond du décor et qui se mettait derrière les paravents. Et on nous racontait l'anecdote, il détruisait tous les paravents avant de combattre parce que sinon c'était pas loyal.
Et ce dont tu viens de parler, tu fais très bien d'en parler, le côté loyal.
Ouais.
Là, c'est vraiment personnel. Il y avait une des choses, quand quelqu'un perdait l'arme, on attend. On est des samouraïs.
On reparlait la dernière fois de je ne t'attaque pas pendant que tu as les étoiles. C'était le jeu, parfois, il y avait des gens qui jouaient comme ça.
D'accord. Il y avait des règles spécifiques en Espagne aussi, Wellcook, là-dessus.
À ma grande honte, je n'ai pas énormément joué à ce jeu-là. Je ne me souviens pas l'avoir vu en Espagne beaucoup en salle, en fait.
D'accord. Il n'était pas piraté.
Les gars, on parle d'il y a 20 ans bientôt. Là. La crise espagnole, ce n'était pas encore ça, tu vois.
Non, mais franchement, il y avait énormément de Fatal Fury, d'Art of Fighting. Après, ça a été essentiellement de King of Fighters, mais Samurai Shodown, j'ai très très peu vu représenté dans les salles d'arcade en Espagne, en tout cas.
D'accord. Donc, on peut dire que même en France, c'était pas un jeu qui était ultra représenté. On parlait tout à l'heure du fait que c'était un jeu clairement japonais. On l'a vu dans certaines salles françaises, mais c'était pas un jeu qu'on voyait beaucoup.
C'est un jeu de puriste. Mmh. Ouais. En tout cas, il est renommé pour être un jeu de puriste. Donc, et ça, parce que ça transparaît aussi, comme on disait, dans le gameplay, où on n'est pas forcément dans le show-off. Voilà, tout est.
Oui.
Voilà, toutes les attaques sont ultra classe, par contre. Ça, c'est un des points vraiment aussi essentiels. Il y a
pas que les attaques, le design des personnages aussi. Et l'environnement, tout transpire la classe dans ce jeu. Vraiment, il y a.
Et souvent, quand il y a des débats sur le charisme, on cite souvent, en fait, Samurai Shodown.
Comme une référence.
Voilà, ouais. Parce que tous et dans tous dans leur style différent. Et ça, ça a été vraiment.
À deux, trois exceptions près, mais.
Après, c'est une question
de goût.
Mais voilà, là-dessus, au niveau du gameplay, on se rend compte que tout ce qui a été créé, même visuellement, en fait, sert une cause à chaque fois. On se rend compte, et pour faire monter la tension, par exemple, dans le jeu, quand on n'a plus beaucoup de vie, on a la barre en fait qui commence à devenir rouge, mais en fait elle a aucune incidence, la barre de vie à devenir rouge, elle a aucune incidence sur le gameplay, mais en fait c'est vraiment pour faire monter la tension, et on a un son, à la grosse différence de d'autres jeux, on a vraiment un petit son à ce moment-là, donc vraiment le petit son, son d'alerte
qui te dit que
c'est un petit piririt,
ouais, bon, ça c'est aussi un héritage de Street Fighter avec les musiques qui s'accéléraient quand on a moins de vie,
voilà, et là-dessus vraiment il y a toujours une accumulation
qui changeait, oui, c'est parce que c'est pas les mêmes thèmes, c'est vrai.
Oui, voilà. Donc là-dessus, au niveau gameplay, on se rend compte que tout est axé pour faire monter en fait la tension.
D'accord.
Voilà, c'est vraiment un jeu axé là-dessus, et c'est quelque chose qu'on va pas retrouver très souvent en fait dans les autres jeux. C'est vraiment entre Samurai Shodown 1 et Samurai Shodown 2, c'est quasiment les deux seuls, même dans la série, à avoir ce côté-là. Ou ensuite, il va y avoir des modifications dans le temps, mais c'est un des jeux, je pense, qui ressemble finalement beaucoup à ça, c'est Bushido Blade.
Ouais.
On a vraiment une énorme tension dans le combat, sur quelles que soient les attaques lancées.
La vraie différence entre les deux, c'est que donc Samurai Shodown se passe en tant que jeu qui essaye de créer ses interactions par rapport à un gameplay global, alors que Bushido Blade, lui, a quand même cherché beaucoup plus dans son genre à restituer relativement fidèlement des styles de combat associés à des armes. Et c'est en ça que ce jeu est très spécifique et assez génial, à mon avis.
Samurai Spirit est vraiment un jeu d'arcade.
Voilà.
Voilà, c'est...
D'accord. Ouais.
Exactement, on parle de la même chose. Les mêmes intentions en fait, sont véhiculées. Mais
l'outil n'est pas le même.
Voilà, il y en a un, c'est en arcade, l'autre, c'est en simulation.
D'accord.
Donc, pour rebondir sur ce que tu disais et ce dont on n'a pas encore parlé, il y a aussi une barre du coup d'énergie, puisque tu parlais de tension. On a donc la barre de rage. Je te laisse.
De rage.
Voilà, la barre de rage, en fait, tout simplement, son fonctionnement, c'est exactement le même fonctionnement que la barre d'ultra. C'est à une chose près. En fait, donc, on se prend des coups, on a une jauge qui augmente.
Ouais.
Une fois qu'elle est remplie, on peut faire une super attaque. Et en fait, l'énorme différence entre les deux, c'est que cette jauge-là, en fait, se vide dans le temps. Elle ne reste pas au maximum pendant tout le reste de la partie. Donc, on sait que pendant un instant T, pendant toute une petite situation, le joueur peut faire une furie. Et donc, le joueur adverse le sait aussi, mais le joueur qui a la barre sait que le joueur adverse le sait aussi. Mmh. Et puis voilà, on entre dans le Yomi et dans le mind game.
Puis à la différence près, c'est que la barre ne te permet pas que de faire du coup des coups différents, c'est qu'elle te rend également plus fort, mais elle te rend également plus perméable aux coups que tu vas recevoir. Tu perds plus de vie quand tu es énervé du coup que quand tu ne l'es pas.
Ah ouais, tu perds plus de vie quand t'es énervé.
Cette dynamisme, en fait, ça dynamise tout le jeu. En fait, ça accentue.
On va pas te donner qu'au désavantage, déconne pas.
Hein. Je sais pas, demande.
Non, il faudrait pas faire ça, sinon ce serait un autre jeu.
Voilà.
Ouais. Et aussi, il faut savoir que la super attaque que l'on fait à ce moment-là fait aussi perdre l'arme de l'adversaire.
D'accord, ok. C'était quoi en fait? Ça prenait quelle forme
Des manipulations assez compliquées.
Oui, suivant
le personnage.
Ouais, mais c'est vraiment estampillé SNK avec des demi.
Des demi partout.
Voilà, des diagonales des fois.
Avant demi, très classique aussi. Après, juste, en fait, cette jauge de rage, au final, c'est parce que là, on est encore dans l'époque du prémisse du jeu de combat avec les premiers épisodes de nombreuses séries. Ça reste quand même le premier vrai archétype de ce qu'on appelle aujourd'hui les jauges de super.
Ce serait plutôt Art of Fighting 1 quand même.
Parce que la jauge d'Art of Fighting, c'est une jauge qui te sert pour tous les coups spéciaux et elle se remplit pas d'elle-même. Et tu l'as à disposition dès le début du combat.
Bah alors je dirais que c'est même plus le, comment dire, la première mécanique de comeback.
Ouais.
Voilà, c'est la différence, parce que dans un street, dans un Super Street 2 par exemple, ouais, où la jauge en fait...
T'avais Fatal Fury 2, c'est quelle année déjà?
Fatal Fury 2, 94 je crois, de mémoire.
Ouais, je crois après Samurai
14, d'accord.
J'ai un doute, moi, je vais vous le dire.
Voilà. Donc là-dessus, surtout en fait, c'est que elle te permet de revenir en fait, oui, dans le match. Et surtout, elle se construit pas parce que toi, tu as réussi à donner des attaques. Elle se construit parce que tu as reçu des attaques.
Mmh. Voilà. Ce qui est un peu la différence avec la plupart des jauges de l'époque, on va dire.
Qu'on construit.
Non, c'est après 93, mais après. C'est un petit peu après dans l'année.
Donc ils ont dû construire les deux systèmes en même temps en fait, dans leur tête, dans leurs équipes.
Ouais. Oui, oui, là, ça se voit qu'il y a, comment dire, il y a des ressemblances et de la collaboration.
Là. Oui, bah, c'est logique, on va dire. Quoi. Est-ce qu'on a fait le tour du gameplay de cet épisode, ou est-ce qu'il y a encore des tas d'autres trucs à dire? Je sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui balance un bœuf ou je pose la question.
Non, un des éléments qui m'avait vraiment marqué à l'époque, c'est certains personnages, et certains, vraiment certains spécifiquement, pouvaient marcher accroupis.
Mais c'était pas déjà le cas dans Fatal Fury déjà ? Dans le premier Fatal Fury ?
C'était dans le premier
Dans le 1, oui, c'est aussi dans le 1. C'était qu'il y avait Kyoshiro, par exemple, qui pouvait le faire.
Je me souvenais pas.
Ah, c'était Kara spécifique ouais, comme truc.
Oui, oui, oui. C'est pas un truc générique.
Et le fait que ce soit pas générique, qu'il y ait plein d'éléments comme ça, en fait, que ce soit pas générique, certains personnages ne peuvent pas faire de coups spéciaux parce qu'ils ont pas d'armes. Certains ont accès à tout. Certains peuvent faire des choses quand ils sont mains nues. Certains peuvent marcher. On a vraiment plein de petits éléments, en fait, Kara spécifique. Et pareil, c'est un des premiers jeux où le Kara spécifique a une place si importante.
Voilà, on rappelle Kara spécifique, c'est-à-dire c'est des capacités qui sont spécifiques à chaque personnage.
Voilà, qui avait vraiment été introduit, on va dire, par Final Fight dans le genre, mis complètement en avant dans Street Fighter 2 et qui du coup est devenu une marque de fabrique de beaucoup de jeux.
Mais Street Fighter 2, c'était que la move list, on va dire. Oui. Là,
Non. Contrairement à la plupart des autres jeux de combat, tu prends le saut de bison, par exemple, et celui de Ryu, ça n'a strictement rien à voir. Mais non, attention, parce que c'est très important, parce que quand tu prends les premiers Fatal Fury, par exemple, il n'y avait pas de différence entre les sauts. Quand tu prends un Mortal Kombat, du coup, tous les personnages avaient quasiment le même coup, sauf les coups spéciaux. Cette différence était très importante.
C'est sur ce genre d'éléments que tu te rends compte à quel point les développeurs qui font un jeu de combat ont compris le jeu de combat ou pas.
Oui.
Oui, ils ont compris en fait la profondeur possible dans un jeu de combat. Mmh. Le fait de dire, bon, de toute façon, on va tous leur mettre les mêmes sauts, hein, qu'est-ce que ça va changer? Et le fait de se dire, entre ce delta-là, et le fait de se dire, tiens, on va choisir ces trois personnages-là, et il n'y aura que ces trois-là qui peuvent marcher en étant accroupis.
Il y a que ces trois-là qui peuvent rebondir sur le décor.
Voilà. On a aussi ça, le triangle jump, le fait de sauter en fait sur le mur arrière pour pouvoir après effectuer un saut plus grand. Donc voilà, il y a tout ça, parce que j'essaie vraiment de réfléchir pour pas dire ce qu'il y a aussi dans Samurai Shodown 2.
On va y venir bientôt de toute façon. Donc est-ce qu'on a fait le tour?
Sur le gameplay, voilà, ça y est.
On peut parler d'autres choses, comme de dire que ce jeu est le premier à avoir inauguré la censure chez SNK pour les versions occidentales.
C'est
le premier où les Japonais ont eu le droit à une version avec du sang, du découpage adversaire et tout.
Graphiquement, t'avais vraiment des mecs coupés en deux et des membres qui volaient.
Graphiquement, t'avais vraiment des mecs coupés en deux.
Des membres qui volaient.
Pas des membres qui volaient. C'était un truc générique au niveau de la taille du personnage, était où tu le voyais coupé en deux avec deux bouts de sprite qui partaient d'un côté et de l'autre.
Et qui finissaient par disparaître.
C'était pas un cadavre qui restait sur le décor. C'était pas gore.
Ceci dit, attention, parce que l'image de fin. Quand tu avais le vainqueur, l'autre il repartait vraiment sur une natte entourée il était
un drap blanc.
Pas un drap blanc, c'était vraiment une natte.
C'est vraiment cette notion, c'est vraiment différent. C'est pas gore, c'est violent.
D'accord.
C'est pas du Mortal Kombat.
Et ça ne porte pas que sur le graphisme, parce que comme le disait Wael, sur les textes aussi, le jeu à la base est très violent. On va tuer les autres, on se combat pour s'achever, tout ça. Et dans les versions occidentales, ça a aussi été beaucoup adouci, tous ces textes-là. Donc quand les joueurs,
et
je crois que c'était valable
en fait,
que sur console d'ailleurs, les censures.
Oui.
C'était pas sur les versions arcade, ce qui a beaucoup énervé les joueurs occidentaux qui ont acheté le jeu en se disant mais il est pas arcade perfect. Déjà à l'époque.
Ouais, mais fallait acheter une Neo Geo.
Non, mais en fait, il paraît qu'en mettant juste sur la région japonaise et en revenant après en version normale, ça passait.
Il y avait pas de code en plus qui permettait.
Sur le deuxième, je crois que c'est un code. Sur le premier, il fallait mettre la langue japonaise et sur l'autre, c'était un code.
Ouais, fallait se mettre. Oui, en effet, pour la première version, Samurai, il fallait se mettre en fait en japonais et revenir directement en anglais. Le sang était rouge, on avait les textes en anglais.
La classe.
Voilà. Non, mais tout ça pour dire que c'est le premier d'une série de censures de la part des SNK qu'on n'a jamais vraiment compris. Et pourtant, le jeu était sorti avant Mortal Kombat.
Oui, bah écoute, comme quoi. Comme quoi, hein, comme on dit. Bah, avant Mortal Kombat.
Ouais, avant Mortal Kombat. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises.
Samurai Shodown est sorti avant Mortal Kombat ?
Mortal Kombat 93.
Je crois que c'est sorti la même année.
C'est sorti la même année, mais je me demande si Mortal Kombat
est sorti en fin d'année, sorti en octobre de mémoire.
Mais il n'est pas sorti en fin 92 en arcade ?
Là, tu me mets un doute, Wayne Cook.
Pendant pas 92.
On va continuer pendant que TMDJ fouille dans ses feuilles.
Dans mes notes.
Vous ne le voyez pas, mais il est en short avec ses archives posées sur ses
shorts et en tongs avec des mèches blondes.
Attention, Waycook.
Alors,
tu joues un jeu dangereux.
Donc le temps passe. Donc le temps passe et malheureusement nous ne pouvons pas le distordre. Donc peut-être qu'on va passer au personnage.
Ouais.
À la limite, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Parce que vous parliez beaucoup d'archétypes et de références et de choses comme ça.
C'est MDGC qui a les notes les plus développées sur les personnages.
Je suis à vous tout de suite, mais en fait, c'est fin 92.
Je retiens bien nos podcasts.
Mortal Kombat était sorti avant, donc c'est peut-être le syndrome Mortal Kombat qui a frappé.
Oui, c'est vrai qu'à l'époque, en plus, on en a parlé dans le podcast Mortal Kombat, mais il y a quand même eu la polémique aux États-Unis, plus la création de la classification des jeux.
Tout à fait.
Ouais. Mais en fait, c'était surtout vraiment les versions consoles, ouais. Et même les versions consoles, les downgrades, les Mega Drive, Super Nintendo, ou je sais plus laquelle des deux versions, c'était vraiment avec du sang orange.
Il y avait que la Mega Drive qui pouvait désactiver la censure avec un code, et parce qu'on nous avait raconté le coup du Sega Mega Drive does what Nintendo don't.
Ouais, non, mais c'est pareil, sur Super Nintendo, tu pouvais pas couper l'adversaire, alors que sur Mega Drive, tu pouvais, je crois.
Bon, allez, revenons à Samurai Spirit.
CD, un truc très drôle sur ce jeu, parce qu'il y avait un bug. Que quand tu arrivais au boss de fin, ça bloquait le jeu.
Ok, merci, Michael.
Super sympa quand même.
L'anecdote qui tue tout. Alors, parlons des personnages, parlons du personnage principal. Comment qu'il s'appelle ?
Aomaru.
Ah oui, évidemment. Quelle surprise.
Tu dis Aomaru.
Oui, tu l'aurais dit Aomaru.
Aomaru. Moi, j'aurais dit Aomaru.
Ah, toi, tu le dis bien, toi.
Ah, tu fais bien l'ambiance japonaise médiévale.
Aomaru.
J'imite bien le juge.
Ouais.
J'ai un souvenir de ce personnage velu, sale, avec une bouteille de saké.
C'est un ronin, donc ça veut tout dire. Hein.
Voilà, c'est un ronin qui est inspiré.
C'est quoi un ronin, TMDJC ?
Alors, qu'est-ce qu'un ronin en fait ? C'est un samouraï qui n'a plus de maître, hein, grosso modo. Alors, il y a deux types de ronins. Il y a ceux qui ont choisi d'eux-mêmes de garder une totale indépendance. Ils sont très peu nombreux. Puis il y a ceux qui, pour des raisons X ou Y, ont perdu leur maître parce qu'il est décédé, parce que.
En général, c'est la seule raison. Hein.
Non, des fois, parce qu'il y a eu.
Parce que le shogun peut décider de dissoudre un clan, ce genre de choses aussi. Ouais.
Voilà, donc.
Qui a eu des bisous avec la fille d'eux, et puis il se fait dire.
Ça, il faut pas. Mais en général, tu restes pas ronin très longtemps quand tu fais ça. D'ailleurs, tu ne restes pas tout court très longtemps.
Voilà. Donc, c'est un ronin.
Voilà, qui a été directement inspiré de Miyamoto Musashi, qui était donc lui-même un ronin.
Pouvez lire le manga Vagabond.
Voilà, par exemple.
Pas très, bon, c'est la pierre et le sabre.
Oui, tout à fait.
Classique de la littérature japonaise.
Alors, il s'écarte sur son comportement du personnage, parce que tu parlais tout à l'heure du fait qu'il buvait. Il a un côté très moqueur, en fait. Il est très provocateur, ce qui s'éloigne du personnage d'origine. C'est un personnage qui, on en parlait tout à l'heure, c'est clairement le shoto de base. Il a donc un projectile qui envoie.
C'est une petite tornade qui parcourt le sol.
Et il a un dragon qui est pas un dragon classique, parce qu'il y a vraiment un mouvement avant, mais qui
va très très haut d'ailleurs. Si tu te rates, mais tu n'as pas le droit de derrière.
Là, avec ce, tu n'as pas le droit de te louper là. Mais sur celui-là, c'est.
Et il a pas une espèce de tatsu où il saute en faisant un
tour, ou premier, c'est plus tard. Je crois que c'est à partir du deuxième, il me semble.
Dans le deuxième.
D'accord.
Quelque chose à rajouter, non ?
Oui, il y avait rarement plus de 2 à 3 coups spéciaux par personnage. Ouais, en dehors premier, de ceux qui ont des animaux, c'était rarement plus de 2 à 3 coups spéciaux. Quoi.
Non, Aomaru, personnage classique, j'ai envie de dire. Hein. C'est, même moi, je le connais et il me bouge pas plus que ça, les neurones, on va dire.
il est,
en même temps, t'en as pas, c'est pas dur.
Disons qu'il était quand même ultra classe. C'est vraiment en samouraï.
Il est charismatique.
Il est charismatique, voilà. Mais...
C'est avec les cheveux longs en bataille type shonen.
J'ai jamais aimé en fait ça. J'aime bien sa move list et tous ces trucs, mais j'ai jamais aimé sa pose de base là où sa stance, oui.
Avec
oui,
son sabre sur la tête.
Ouais, au-dessus de la tête, puis ça bouge vachement bizarre beaucoup là. Je trouve ça un peu.
Vachement bizarre beaucoup.
Tu parles vachement bien la France, toi.
Bah, c'est pour ça que je fais de l'audio parce que je sais pas écrire. Non, mais voilà. Enfin, c'est pas ça. Je n'ai jamais vraiment beaucoup aimé Omaru parce que je trouvais qu'il faisait vraiment trop défroquer.
Bon, alors je t'en propose un autre alors. Je te propose Tachibana Ukyo.
Ah oui, non, mais bon, lui il est guindé, c'est l'inverse.
Ah ouais, c'est.
Ouais, non.
Mais pareil, les deux ils sont comment dire, ils sont deux extrémités du spectre.
Bah, c'est Ryu et Ken quoi. Il y en a un qui est flambeur et l'autre qui est le sage.
Il est lui-même en fait inspiré d'un personnage célèbre qui s'est lui-même battu contre l'autre personnage célèbre, à savoir Sasisaki Genryu, qui donc a perdu. Justement, il y a une île qui porte son nom et qui a perdu donc un combat. On en parlait tout à l'heure, le fait que les combats on rigolait plus là à ce moment-là. La petite chose qui a été rajoutée pour ce personnage-là, c'est que dans le jeu, c'est un personnage qui est malade, ce qui n'était pas le cas dans la vraie vie, en tout cas pas qu'on sache. Donc là, il est tuberculeux et donc il se bat pas seulement pour se battre, mais enfin il est mourant aussi. Donc
c'est pas le personnage qui crache du sang à la fin du match.
Exactement. C'est le mec qui crache du sang et qui se bat de dos. Si vous vous rappelez bien, sa stance, il est de dos.
Et il a la main sur la bouche, non, ou un truc comme ça.
Des fois, en fait, c'est quand il gagne.
C'est dans les stands où il tousse du sang, mais il se bat tout le temps de dos. Et enfin voilà, il se bat de dos. On l'imagine quasiment aveugle et il est tuberculeux. Et toutes les nanas sont amoureuses de lui.
Ouais, d'accord. Normal.
Dans différentes stands de fin. En fait, on le voit s'enfuir. Vraiment,
oui, on le voit. Oui, je m'en souviens.
On a vraiment les petits bruits, les tap 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 quand il s'en va. Ouais. Et en fait, on voit t'as tout un groupe de nanas qui lui court après.
Ouais. Ah, on te disait que ce jeu était sérieux.
Ah ouais, totalement. Hein, je veux dire la tubercule, tout ça.
Il a pas aussi son sabre dans son fourreau.
Si,
tout à fait. Et donc il y a cette espèce de style un peu particulier où pour porter chaque coup, il doit sortir son sabre très rapidement.
Bah encore un personnage ultra charismatique.
Je me souviens plus du nom de ce style de combat, mais il a un nom spécifique au Japon.
Oui, c'est le. Oui, enfin. C'est pas la technique de bateau qu'il y a dans Kenshin, justement ? Le fait de dégainer ?
J'ai pas lu Kenshin.
Oui, il fait que dégainer le bateau.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et en fait, quand on voit même ses coups spéciaux, hein, c'est vraiment ça. Il a un de ses coups spéciaux, c'est balancer plusieurs attaques ultra rapidement avant de rentrer dans le four.
Et en remettant à chaque fois donc, l'épée dans le four aussi.
À chaque fois, ouais. Et c'est. Enfin, vraiment.
Tu m'étonnes qu'il ait la tuberculose après. Il doit pas respirer, tu sais.
Alors, si tu respires pas, c'est que t'es pas bon, ça va pas du tout.
Alors
bon,
ensuite,
on peut enchaîner sur bon là tout le monde le connaît forcément, Tori Henzo. Si jamais vous ne connaissez pas Samurai Spirit, de toute façon vous avez forcément vu Kill Bill ou enfin là c'est des noms qui sont.
Et c'est qui le fait dans Kill Bill?
Kenji Oba,
qui lui-même du coup a en plus doublé entre autres ce personnage-là et bien d'autres parce qu'il a joué dans beaucoup de films ou de séries.
Oui, parce qu'il a déjà joué en plus.
C'est un acteur et un cascadeur qui a une énorme carrière au Japon. Hein,
ah bah oui.
Un jour, on fera un podcast rien que sur lui.
Je suis d'accord, je viens.
On ne connaît que XOR. Mais
et donc, c'est un ninja, quoi, en gros, masqué avec de la côte de maille.
Je suis pas d'accord, c'est pas un ninja.
C'est pas un ninja ?
C'est le ninja.
Ah, tout de suite.
C'est le ninja. C'est qui apparaît dans de la fumée, qui disparaît.
Il a pas des téléportations avec des effets de fumée, des sprites énormes de fumée, hyper stylisés, ce perso-là.
Mais surtout, il a un de ses coups spéciaux, tu le tapes dessus.
Ouais.
Et pouf. C'est un rondin de voix.
C'est un rondin de voix, ouais.
Et il réapparaît au-dessus de toi.
Ouais. Bah, je me souviens essentiellement de ce personnage-là. Je ne trouvais pas très classe au niveau du sprite. Par contre, je me souviens de ses. De la fumée. Des sprites de fumée.
Puis, c'est un vrai ninja, tu ne vois jamais sa tête. Hein.
Ouais, c'est ça. Ouais. Il porte son masque. Ouais. Enfin, pas un masque, mais une
capuche. Il a une espèce de boule qui va à terre en faisant demi-cercle.
Ouais.
Donc c'est un personnage assez complet aussi dans son genre. En fait, ils sont un peu tous dans le même malgré tout un peu tous dans l'archétype du Shoto dans ce jeu.
Oui, tout à fait.
C'est peut-être une de ses faiblesses.
Sur les personnages les plus charismatiques, oui.
Bah, en fait, ils ont à chaque fois des variations en effet sur ces attaques-là. Mais par exemple, il a pas de Dragon Punch. Lui, il a une chope. Ah, il a une chope de, il a une chope au corps à corps où il part avec le mec et il redescend.
Il joue la drop. Et voilà.
Et c'est l'inventaire.
La suite.
Alors, bon, il y a Gujubé, c'est pareil, ça c'est un nom qui vous parle forcément, ça c'est bon, pour ceux qui ont pareil, ont parlé de films ou etc. Lui aussi tirait forcément d'un personnage ultra célèbre.
Avec un bandeau sur l'œil, donc forcément il est charismatique.
C'est un pirate, donc c'est le plus fort.
Là, pour le coup, le bandeau, en plus, graphiquement, il le tient justement de Sonichiba. Qui dont on parlait précédemment, bon, on parlait d'acteur, voilà. Donc là, bon, je crois que tout est dit. Et ce personnage-là, qui lui se bat à deux épées.
Oui, je me souviens, une au-dessus de l'autre.
Et lui, il a des coups spéciaux, si je me trompe pas, où il se jette sur l'adversaire pour le frapper, non?
Entre autres, son Dragon Punch, il est assez spécial. Voilà, parce qu'en fait, il fait tout un run jusqu'au personnage, voilà. Il le touche et après
il part vers le haut.
C'est ça.
Voilà. Donc, et en fait, il a aussi une grosse particularité, je trouve, par rapport à tout le cast existant de tous les jeux confondus jusqu'ici. Il est vieux.
Oui.
Il est vieux, il a clairement plus de 40 ans.
Il est vieux et ça se voit.
Oui, voilà. Il est âgé. Et, et surtout, ça s'entend grave dans le jeu de voix qu'il a. Ouais. Il a un gros rire ultra stéréotypé. Mais on se rend compte qu'il doit avoir 40 ans, 50 ans. Il a bourlingué. C'est, voilà.
En fait, c'est pas un extrême vieux comme un vieux papy. C'est juste un vieux, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Ce qui est vrai que c'est un âge 50 ans.
Il y a juste
ans.
Un milieu entre 10 et 70.
Oui, voilà. c'est vrai que généralement, on voit souvent des personnages plutôt très vieux, genre le vieux maître chinois, mais vraiment bien, bien vieux. Mais du 40, 50 ans, c'est plus rare. Il est vrai, ouais. Souvent la trentaine c'est un peu la limite quand même dans les jeux de combat nippons en général quoi.
Et même dans le combat en vrai, c'est
ça. J'avoue, oui.
Dans le sport en général.
Merde.
Tais-toi avec tes mèches blondes.
Toi t'es MDJT, t'as 70 ans. C'est...
Non, là, c'est mèches blondes, dira surfeur californien maintenant.
De 70 ans. Alors, ça y est, il arrive plus à se concentrer.
Wang Fu.
Wang Fu, c'est qui ça?
C'est le gars.
On verra dans la suite pourquoi est-ce qu'on a un petit peu de mal à voir qui c'est Wang Fu. Wang Fu, c'est une sorte de mec un peu bedonnant. C'est dans l'histoire en fait, il veut réunifier tout. Il veut réunifier tout
le,
en fait,
tout le Japon.
Tout le Japon, oui. Normalement, je ne sais pas, il veut réunifier tout le Japon. C'est bien ça. Donc, ce qui n'est pas du tout possible, parce qu'à ce moment-là, pendant qu'il se bat, ça sera déjà tout réunifié. Donc, il va réunifier.
Le Japon, à cette époque-là, c'est le Moyen-Âge, comme ça a été chez nous. Hein. C'est,
oui,
c'est
oui.
des petits seigneurs locaux qui ont la main mise sur un territoire et qui le protègent des agressions extérieures.
D'accord. Voilà. Et donc, dans son histoire, en gros, on lui dit que s'il va. Il doit faire un échange, en fait, de son âme pour pouvoir être ultra puissant. Mais il doit faire quelque chose.
Zappé, ça. Ouais, oui, voilà. Il y avait un truc dans ce genre-là.
Voilà, il doit faire quelque chose avant. Aller récupérer, je crois, un œuf de je sais plus quoi.
Une connerie.
Voilà. Et grâce à ça, lui, il veut l'utiliser, pas pour faire le mal du tout. Il veut juste réunifier le Japon.
T'as vu cette histoire un peu?
Et il a décrit le nous.
Alors qu'il est chinois.
Quoi?
Mais il est chinois.
Mais ouais, il a plus de temps de logique.
Mais voilà, non, mais voilà, mais c'est pour ça que j'étais vraiment pas sûr s'il voulait réunifier la Chine ou le Japon. Je ne sais plus ça. Je sais qu'il voulait réunifier quelque chose.
Tu parles de logique dans Samurai Shodown au niveau de l'univers en général, et des personnages en particulier, il y a quand même pas mal de licences littéraires. Ils ont pris beaucoup de liberté pour créer leur cast.
Oui.
Particulièrement, tu vas voir, quand on va arriver sur les personnages plus...
Décris-moi Wang Fu avant qu'on continue. Quand même.
Wang Fu, en fait, physiquement, il ressemble un petit peu finalement à...
Oui. Sinon, il viendrait. Hein.
Pour ceux qui ont bien le cast d'Artof,
il se bat avec Cimeter, en fait.
Il ressemble à Temujin dans Art of Fighting.
Ouais, c'est un peu... Vrai.
Il est un peu bedonnant, il a un bon petit bidon, il est crâne chauve, il a un aspect, comment dire, il a juste un
pantalon. En fait, il a plus un aspect turc finalement que chinois.
D'accord, donc c'est un turc chinois qui veut réunifier le Japon.
Ouais. Alors, pour le Japon, à prendre avec des pincettes, parce que il faudrait
Japon ou Chine, je sais qu'il veut réunifier quelque chose.
Voilà, mais il était dans la réunification.
Il est dans la réunification.
Et il se tape avec, je pense que ça doit être quand même la Chine, parce qu'il se bat aussi avec un sabre chinois vraiment typique.
Ouais.
Dans le premier.
Dans le premier, c'est pour ça.
Et il se joue comment, ce personnage?
Oh, il a.
Oh, le regard désespéré de TMDJC.
Au secours! Là, j'ai envie de dire au secours!
Vous avez pas l'image, mais il y a TMDJC qui a regardé Wael et qui lui a tendu la main, genre.
Fais quelque chose!
Non, bon, allez, on va pas, voilà. Je vais pas vous en vouloir. Le temps file, ça fait déjà.
On a raison, parce que sinon, je vais juste devoir faire des claquettes parce que je me souviens très peu de lui dans le 1. Et quand on parlera du 2, on comprendra pourquoi.
D'accord. Alors.
Alors, Senryu Kyoshiro.
C'est Kyoshiro,
d'ailleurs. Qui lui en fait est un personnage en fait qui se bat
C'est facile de dire ah oui quand tu regardes l'image.
Ah oui,
je veux dire.
Qui se bat comme en fait lui il pratique le théâtre grosso modo, le théâtre japonais, je précise. Voilà, exactement. Et il se
sert en fait. Kabuki Clash.
Il est c'est une bonne question. C'est un homme accompli en termes de culture. Donc il est à la fois un virtuose du théâtre japonais, mais mm-hmm. il est également parce que les pratiquants évidemment de théâtre japonais ne se battent pas d'habitude. On est d'accord. Il cumule les deux activités avec brio dans sa bio.
Sachant que pour ceux qui ne connaissent pas bien la culture japonaise, le kabuki c'était quand même considéré comme quelque chose d'extrêmement important, et les acteurs de kabuki, enfin surtout à cette époque-là, étaient quand même considérés, bon c'est un peu comme les sumotoris, c'est-à-dire c'était des stars. De la haute quoi, c'était
Peut peut-être préciser qu'il n'y avait
même
que des hommes, quand il y avait des rôles de femmes, ce n'était que des hommes.
Il y avait que des hommes, et il y avait même certains hommes qui étaient très renommés pour leur rôle de femme, justement, parce qu'ils jouaient très bien les femmes et ils étaient rares, justement. Donc, c'était pas du tout mal vu, en fait.
Ils étaient vraiment, enfin, là, on parle dans la vraie vie, c'était vraiment adulé par les femmes, ceux qui savaient très bien jouer les femmes, en fait. Parce qu'elles se disaient qu'ils les comprenaient.
Exactement.
Voilà. Et sa particularité, il se bat à la lance.
À la lance, d'accord.
Il se bat à la lance. Donc, il a un style de jeu vraiment, enfin, comment dire, très différent, par exemple, d'un Hanzo, où il est obligé vraiment de chercher la distance. Et faire pas mal d'assauts aériens pour pouvoir ensuite enchaîner rapidement sur une attaque, soit du kick au sol, soit mettre un coup qui va repousser ensuite l'adversaire.
Puis il avait des grandes différences de coups suivant les faibles, moyens, forts. En fait, il y avait des coups sur lesquels il avait une allonge de malade.
Ouais.
À quasiment faire la moitié de l'écran en termes d'allonge. Hein. Donc
sans zoom.
Merci Will Cook
pour ton intervention qui nous fait perdre toute crédibilité. Merci beaucoup.
J'ai envie de dire, c'était un tiers de l'écran sans zoom et une moitié d'écran avec zoom.
D'accord. Merci Well.
Okay. Heureusement que t'es là pour le sauver, parce que sinon, là vous le voyez pas, TMDJC, mais il est tout rouge, hein.
Décomposé.
Et donc il porte, il a un éventail, une perruque rouge, et il est maquillé comme un acteur de kabuki, quoi, en gros.
Donc avec des espèces de raies, de rayons, enfin un maquillage avec une forme de masque, et des traits qui partent sur le côté, sur les joues, et tout ça.
Style Honda, quoi.
Exactement. Bah oui, bah d'ailleurs, il a un masque de kabuki Honda, c'est vrai.
On continue ?
Allez, Charlotte. Alors, Charlotte, elle va peut-être parler à certains d'entre vous.
Ce personnage
parce que...
magnifique. Charlotte. Voilà. Un personnage qui n'a pas compris qu'avec une rapière, on ne se battait pas avec une armure de plaques sur le dos.
Non, elle a pas tout compris, mais a priori, elle est pas mauvaise dans sa discipline. Elle n'est pas inspirée d'un personnage célèbre au sens propre du terme. Elle est inspirée d'un.
De Jeanne dans Wardy Rose.
Oui, non, pas tout à fait. En fait,
tu enlèves l'épée à deux mains, tu mets une rapière, c'est la même. Hein.
Ouais, mais si tu chantes après.
Voilà. En fait, elle est inspirée du manga La Rose de Versailles.
De Lady Oscar.
Voilà.
Sans deck
Le personnage dans son histoire vient de Versailles. Hein.
Ah oui, non oui, enfin.
Enfin, on se bat à Versailles surtout.
Et on se bat à l'escrime. Oui, à cette époque-là, c'est l'escrime en Europe.
Enfin, oui, bien sûr, sauf que. Oui, bon, ok, d'accord. Non, mais.
C'est un
mousquetaire,
en fait.
Non, mais je veux dire Versailles au 18e, logique, tu vois.
Oui, non, mais si tu veux.
Non, mais. Ah oui, on t'a dit les personnages japonais, oui. Mais dès qu'on va du côté un petit peu occidental, bon,
en fait, dès qu'on passe l'océan, les Chinois, ils sont turcs. Tu
déjà, on t'a expliqué que dans le jeu, les Européens ne pouvaient pas rentrer au Japon.
Oui. Mais alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait là ?
Mais non, mais attends, si tu commences à poser des questions.
Dans l'histoire, elle est censée être là parce qu'elle a peur que les troubles au Japon perturbent la France.
Ce qui est logique.
C'est une sorte d'agent secret.
D'accord.
Enfin, voilà.
Et donc, non, comme elle est secrète, elle se bat avec sa grosse armure.
Elle est blonde, hein, ce qui passe pas absolument inaperçu au Japon, voilà. Surtout à cette époque-là.
Il n'y a pas de problème, tu vois.
D'accord.
On t'a dit que ce jeu était sérieux.
Ok.
Et puis, elle a surtout un projectile comme coup spécial, je crois que c'est à peu près tout. Et elle a un coup d'épée, elle met plein de coups d'épée. Ouais. Un peu la Chun-Li, et c'est à peu près tous ses coups.
Ça perçoit à charge ?
Elle a aussi.
Non, pas à charge.
Non, elle avait aussi, j'espère pas me tromper, une attaque un peu similaire à celle de.
Tu peux parler de son dragon, mais il n'est pas dans le premier épisode,
dans le premier,
je crois.
D'accord.
Faudrait vérifier, remarque, t'as peut-être raison.
C'est dans le 1 quand même.
Bon, on vérifiera. Bon, alors là, c'est pareil, on arrive sur des personnages qui sont ultra connus. On a Nakoruru.
Ouais, bon, connue, petite fille, machin.
Voilà, qui ne s'inspire pas non plus d'un personnage célèbre, mais par contre d'une famille.
Mais c'est pas la première fois que c'est une petite fille ? Qui est une petite fille ?
Non, c'est pas une petite fille déjà, c'est une jeune femme.
Non, c'est une jeune femme.
Elle est petite.
Non, il y en a une autre dans des épisodes plus tard qui lui ressemble et qui est plus jeune.
Mais c'est pas.
Ah, d'accord.
Tu confonds peut-être.
Oui, c'est peut-être ça.
C'est une femme qui n'est pas grande, certes, mais c'est pas une jeune. Enfin, c'est pas une gamine, en fait.
D'accord, bah moi j'ai toujours cru que c'était une gamine, parce qu'elle n'est pas grande.
Elle est jeune.
Elle a une voix insupportable.
Dans l'histoire, c'est un personnage très important. Oui. Hein, aussi importante qu'Aomaru au niveau du scénario.
D'accord. Et donc, c'est quoi son histoire, elle, hormis qu'elle a un faucon qui est.
C'est une prêtresse. Hein.
Oui.
D'accord.
Qui est là pour sauver le monde du mal ?
La nature.
En fait, elle faisait partie d'une famille qui a vraiment existé, les Ainu, si je dis pas de bêtises, en fait, qui justement, avec ce kimono-là, avec cette tenue-là.
En fait, on n'a pas parlé, mais l'histoire de Samurai Shodown est très mystique.
D'accord.
Il faut sauver le monde des démons qui vont se réveiller, qui cherchent à ressusciter pour venir le conquérir et la servir. C'est très très mystique. Bon, c'est basique, d'accord, mais c'est mystique.
D'accord.
Et donc dans ce cadre-là, Nakao est un personnage tout particulièrement mystique. Et
elle entend la nature, en fait. Mère nature, tout ça lui parle.
C'est pour ça qu'elle peut se battre avec un aigle.
Bah d'ailleurs, elle communiquera dans la série avec plusieurs animaux. Hein,
J'aurais pris un ours si j'avais été elle.
Non, ça c'est Zangief.
Non, mais dans d'autres épisodes, elle a le loup. Non,
parce que je sais pas, elle mesure 1m50, elle va prendre un faucon, quoi. Je veux dire, prends un ours.
Attention, tu t'es déjà battu avec un faucon ? Moi, la semaine dernière, je me suis tapé un faucon, c'est chaud quand même.
Non, mais n'empêche que, enfin, on se moque du faucon, mais entre ses interactions avec le faucon, globalement, elle a un gameplay très très riche et très intéressant, peut-être le plus intéressant du premier épisode.
C'est certainement pour ça aussi, ça fait partie des choses qui ont fait que le personnage a énormément marché. Hein. C'est un personnage qui est vraiment atypique.
J'ai envie de dire, je trouve que c'est la première pierre, elle, son gameplay, à Guilty Gear.
Ah ouais.
Tout ce qui ensuite est dans Guilty Gear, voilà, j'amène un bateau, un dauphin, un truc, mon père, ma mère, tout ce que tu veux. C'est la première fois que ça arrive. Où
t'as des éléments extérieurs en fait qui n'ont rien à voir à proprement parler avec le sujet de base, mais qui viennent s'intégrer, qui paraissent logiques alors qu'ils n'y sont pas.
C'est pas ça, c'est surtout qu'il y a un système de jeu global dans lequel rentrent tous les persos et t'as beaucoup d'éléments annexes à ce personnage qui sont exclusifs à ce personnage qui viennent se rajouter par-dessus ce système de global du jeu.
D'accord.
Et donc là où il fait rapport à Guilty Gear, c'est que dans Guilty Gear, en fait, tous les personnages ont
leur système global,
mais ont un système propre qui les libère de pas mal de contrats ou qui rajoute des possibilités. Et ce personnage-là a une richesse de gameplay dans cet épisode par rapport aux autres qui est phénoménal.
Ce qui est incroyable aussi, c'est que ce personnage, tu peux vraiment...
Tu peux foncer vers l'adversaire rapidement, l'attaquer à distance.
Et puis tu le joues vraiment comme tu veux, parce que son oiseau n'est absolument pas obligatoire dans l'approche que tu vas avoir de ce personnage.
Il prend pas feu, son oiseau ?
Quand il fonce,
il s'enflamme.
Quand tu l'envoies comme un projectile,
C'est vrai qu'un ours qui s'enflamme, c'est peut-être plus dur.
Non, mais quitte à prendre un animal, moi j'aurais pris un tigre avec des ailes qui balance des rayons avec les yeux. Mais...
Bah, ils l'ont fait dans Wazard, mais...
C'est vrai.
Une ammonite géant. J'aurais pris une étoile des mers.
Bob l'éponge. Alors, on a Jen Han, sinon, qui est...
Qui est un membre du clan Shiranui.
Non,
c'est pas lui.
Non,
explique-moi d'abord pourquoi il est vert.
En fait, c'est un bakemono.
C'est quoi un bakemono ?
C'est propre au Japon. C'est une espèce de gobelin, en fait.
C'est un monstre traditionnel.
D'accord. En fait, c'était un mec qui est dans les enfers, d'accord ? Et il a passé un pacte avec le maître des enfers pour pouvoir revenir à la vie.
Ouais.
Et en gros, quand il sort des enfers, il se retourne et il dit, de toute façon, toi, je vais te glisser une quenelle de 175 à un moment. Tu m'as laissé sortir, mais voilà. Donc
c'est pas un Tengu, c'est pas un Oni, c'est vraiment c'est une sorte de gobelin japonais.
Ouais. D'accord, ok. Ouais. Et est-ce que il fait de l'électricité après avoir été mordu par des anguilles ou...
Non, ça il ne fait pas. Il fait par contre la roulade de Blanca. Ça, il a quelques points communs avec Blanca. C'est
d'accord.
Vrai.
Bah c'est une sorte de mix entre Blanca et Vega presque, parce que il utilise une grande griffe.
D'accord, ok.
Et un peu, c'est un peu le premier du personnage d'un là dans King of Fighters, celui qui est avec Kim.
Choi.
Choi, c'est le gros et Choi c'est le petit.
Ouais, le petit là. Oui. Je trouve qu'il y a des prémices de Choi dans ce personnage.
Bah, sur ses normaux.
C'est vrai.
Il se bat avec des griffes, non aussi avec des ongles au bout des doigts comme Freddy Krueger, un peu pareil. Donc c'est un personnage qui va avoir beaucoup d'impact sur d'autres jeux.
Bah, il est vachement inspiré quand même aussi de même dans la pose, même quand il utilise quand on voit le tout de Freddy quand même.
D'accord.
Donc ça et puis dans son background dans une grosse marmite, il y a quand même un alien. Ouais, il y a un alien qui cuit dans une marmite.
Alors attends, on va couper, on va faire 5 minutes de pause puis je vais revenir.
Ah bah quand t'as faim, hein.
D'accord. Ce podcast commence à se barrer en couille. Bon. Bon, allez, continuons.
Mais par contre, il s'appelle Genan Shiranui.
Oui.
D'accord.
Mais pas de lien de parenté entre
eux. Voilà, il n'y a aucun lien. Mais souvent, c'est vrai que.
Pourquoi il s'appelle Shiranui ?
C'est une grande. Il s'appelle Shiranui.
C'est un nom commun, non ?
Non, mais complètement.
Pas si commun que ça.
Non, mais il n'a aucun lien parenté avec aucun perso, en fait, du jeu. Et il y a beaucoup de choses.
Non, tu veux dire, avec aucun personnage, il n'appartient pas au clan Shiranui, de Ninja.
De l'univers, etc., de Samurai Spirit. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des choses là-dessus, effectivement, sur les forums. On a lu beaucoup de choses, mais c'est totalement faux.
D'accord.
Voilà. Bon, ensuite, on va enchaîner avec Earthquake.
Heureusement qui détient la vérité.
Earthquake, ouais.
Ouais.
C'est un Américain.
Qui est un Texan, même, pour être exact.
Quoi tout à
fait, c'est un Américain, oui, c'est si.
Foutons de ma gueule, je vais jouer, mais c'est pas possible.
En fait, c'est un ninja, mais drop out. Tu vois, il a quitté l'école de ninja. Il était, bah, en fait, il a exactement là où était Hanzo Galford.
Ouais.
Sauf que lui, il s'est barré. Entre-temps.
Tu vois, là, on rappelle que historiquement, je veux dire, dans la vraie vie, on sort un peu de l'époque où le ninja était un des thèmes rois dans les films d'action américains.
Hein. Oui, d'accord.
Donc les ninjas américains, ça rien de surprenant déjà à cette époque-là.
Oui, sauf que ce personnage est obèse avec un pantalon déchiré qui lui moule les fesses.
Le personnage est aussi énorme, c'est le plus grand du jeu.
C'est ce que je voulais dire, c'est même pas seulement le plus grand du jeu, c'est l'un des plus grands sprites à l'époque qui avait jamais été fait. Je rappelle qu'on est en 93, le sprite il est énorme.
Art of Fighting.
Ouais, alors zoom, pas zoom, là on peut jouer sur les mots.
Mais là, et il est inchoppable.
Ah, il est normal.
On ne peut
trop
pas
gros.
Le choper. Quand on essaie de le choper, en fait,
tu
il y a une
attaque. Ah, normal, il est trop gros, mais c'est la première fois que ça arrive.
Hein. Ouais, logique.
Personne ne s'est posé la question pour Honda, par exemple. Donc,
mais Honda, tu lui fais un croche-pied.
Ou que Chun-Li attrape Zangief, c'est pas grave.
Oui.
Et le retourne, pardon.
Ah, mieux, Camille qui retourne.
Mais alors, attends, j'ai toujours pas compris pourquoi c'était un Texan.
Pourquoi ? Alors là, il faudrait qu'on te demande l'avis des développeurs. Je vais les appeler, ne quitte pas.
Parce qu'ils cherchent du pétrole au Japon, normal.
Et puis, il faut bien savoir qu'à l'époque, le Texas en soi n'existe pas.
Ouais, en plus, 18e siècle,
c'est pas fini. 18e,
on
n'est pas encore dans la conquête de l'Ouest au 18e.
À cette époque-là, si je dis pas de bêtises, le Texas, où c'est. Enfin, c'est une notion vachement vague.
En tout cas, il ne creuse pas pour le pétrole à l'époque.
Non, mais moi, je dirais que le Texas existait déjà parce que la guerre entre le Mexique et les États-Unis, c'était avant le 18e, si je ne dis pas de bêtises.
Peut-être.
Non. Ah, si, peut-être.
Je ne sais pas.
Bref.
Je vais pas challenger là-dessus.
Le temps passe. Continuons.
Tam-Tam.
Ouais, lui, je le connais pas.
Voilà. Alors, Tam-Tam, c'est un personnage qui n'existe quasiment que dans le premier, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises.
Peut-être dans la compile qui était sortie sur Atomis Web, le Tenkaichi, je ne sais plus quoi.
Je me souviens des persos qu'on voit qu'une fois.
Alors,
Tam-Tam, mais le perso, tu t'en fous, mais
dans le 4.
Dans le 4, il y a.
Le 5, pardon.
Il est dans le 4.
Enfin, bon, qu'importe. En tout cas, Tam-Tam, c'est un mélange de plusieurs cultures tribales, en fait. Mais là, c'est pareil. On parlait d'SNK qui prend beaucoup de liberté. C'est un personnage qui se veut plus ou moins aztèque, mais qui se bat quand même avec une arme qui est en métal.
Il vient d'Amérique du Sud. Oui.
Alors qu'à l'époque, pour le coup, bon, bah voilà.
On t'a dit que le jeu prenait des libertés avec.
Ah, là, vous le voyez pas, mais je me penche et je regarde le sprite et je fais aztèque. Ok.
Et en fait, il est possédé par le masque qu'il porte, qui lui confère du coup des pouvoirs. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit du coup que, bah, que le SNK s'est inspiré du film The Mask. Le film n'était pas encore sorti.
Mais quelle est la logique, The Mask, ça rentre ouvert et tu danses.
Non, mais bon, parce qu'ils sont dit.
Non, mais dans la chronologie du film, The Mask, c'est aussi un artefact qui date des Mayas, si je ne me trompe pas.
Ouais. D'accord.
Donc, il se jouait comment celui-là ?
Ah oui, mais oui, t'as raison.
Oui, comment il jouait Tam-Tam ?
Alors, Tam-Tam, il était. Je sais que dans son évolution, il a été super fort en fait en zoning aérien.
Aérien, oui. D'accord.
C'est vraiment ses attaques en fait. Il a des attaques qui te forcent en fait à vraiment faire que du saut sur place. Vraiment du saut sur place, il s'attaque parce qu'il a une allonge phénoménale avec ça. Et il avait aussi un gros jeu en fait de boules. Parce qu'en fait, il avait une attaque où il balançait un crâne soit au sol, soit à hauteur en fait de tête. Donc il n'a jamais eu en fait une attaque projectile à hauteur classique.
Classique, ouais.
Voilà. D'accord. Donc c'était une alternance entre les deux.
Alors, et on en a passé un dans ta liste.
Oui, on a oublié Galford. C'est la honte.
Ouais, mais c'est un ninja américain blond. Il n'y a pas plus générique comme personnage.
C'est American Ninja avec un chien.
C'est exactement ça.
Alors là, c'est dommage. Bon, Valentin est là, mais on va pas le faire venir parce qu'il pourrait nous parler de American Ninja pendant des heures. Mais American Ninja, oui, c'est une série.
Si on regarde, on trouve les DVD. Là, je pense qu'il traîne.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est une série de films de nanar en fait, de ninja américain où il y a marqué ninja.
Tu dis nanar avec le recul, mais à l'époque, on trouvait ça vachement classe.
Ouais, ouais, tu trouvais ça vachement classe qu'il y ait marqué ninja sur le bandeau du ninja, tu vois.
Attends, Ninja Blanc, les Nuits des Ténèbres, je l'ai vu 20 fois sur la 5.
Voilà.
Putain, je suis vieux.
Mais en fait, dans l'histoire, c'est un détective. En gros, il a été à l'école de ninja, tout ça, pareil qu'Anzo. Lui, il a bien passé ses classes.
Il est bien blond, il est bien américain. Voilà.
Mais en fait, il est aux États-Unis, il vit sa vie bien, donc c'est un détective, et aussi, il adore le surf.
Ok.
Voilà.
Et il pratique le surf avec son chien.
Oui.
Non mais ça c'est important.
Okay. Mais ok les mecs, il y a pas de problème.
Non mais en fait tu vois les ryokens du jeu c'est Hanzo et alors comment j'ai oublié son nom déjà.
Oui, tu dois prendre un
Hanzo et Galford.
Ouais, vieille école, nouvelle école. Quoi.
Voilà, ils ont chacun le même sprite mais dans des styles un peu différents.
Oui, bah là serait plutôt Sub-Zero et Scorpion. Ce serait plus deux ninjas, deux couleurs différentes. Et lui par contre son gameplay. Si je devais comparer, c'est pareil, c'est un petit peu le tout début de Eddie.
C'est un perso qui utilisait Negative Edge.
Non, mais en fait, qui
en 93,
voilà, qui utilise sa bête,
sa créature,
voilà, BETE, pour en fait effectuer certaines attaques qui prêtent vraiment à confusion pour savoir si je dois me protéger debout ou en bas, par exemple.
D'accord.
Chose là, tu pouvais envoyer le chien qui arrive par en haut. D'accord, parce que le chien aussi, c'est un chien ninja.
Non, tu le lances pas par la queue. Non, c'est parce que... Vous ne voyez pas, mais Nathan est pété de rire.
Non, mais c'est vrai. Je me rends compte en le disant, en fait. Je l'ai tellement dit toute ma vie. Voilà, il envoie le chien par le haut et puis il attaque par le bas. Il n'y a rien de spécial dans ce que je viens de dire.
Ça dépend qui l'écoute. Voilà. Un bisou au film, bonsoir.
Voilà, mais en fait, c'est parce que son chien aussi, il est ninja.
Okay.
On va dire un petit peu comme dans Naruto, hein, où le chien aussi il fait les techniques de ninja. Donc voilà, pour les gens qui nous rejoignent maintenant.
Pour les jeunes.
Voilà.
Non, mais juste un truc, c'est qu'entre Calford, ça y est, j'y arrive,
ouais,
et Nakuroro, la grande différence, c'est que Nakuroro, elle joue avec son aigle, donc elle interagit avec. Là, Calford et son chien, ça se joue en parallèle.
C'est-à-dire d'accord.
Que tu joues Calford et tu peux faire intervenir le chien qui porte des coups.
D'où la référence à Guilty encore.
Ouais, voilà. À Eddie, où tu jouais les deux en même temps, etc.
C'est ça. D'accord.
Okay. Voilà, parce que t'as un coup spécial. Voilà, t'as un coup spécial pour ton personnage, un coup spécial pour l'autre en même temps. Et le tout, c'était de bien tout timer pour faire des attaques qui semblaient imparables.
Mais qu'il l'était.
J'ai envie de dire qu'il l'était pas. Après.
Ok. Est-ce qu'on a fait
Alors on a pas parlé du boss.
Ah, alors c'est qui le boss?
Alors le boss, c'est Shiro Amakusa.
Ah oui, mais oui, mais oui.
Amakusa Shiro Tokisada.
Qui se bat avec une sphère.
C'est voilà. Le sorcier, là, non? C'est ça?
C'est le père Aviola, dans Soul Calibur, en fait. Il se bat avec une boule exactement comme elle.
Ah oui, d'accord.
Tu peux aussi dire la mère, hein, parce que dans un des épisodes, c'est une gonzesse, Amakusa.
Non, c'est pas Amakusa. Dans le 2, c'est quelqu'un d'autre.
Ah oui, c'est quelqu'un d'autre.
D'accord. Oui, Amakusa, c'est un personnage en robe, avec des cheveux rouges, etc. Une sphère,
ça s'appelle un kimono, mais...
En fait, c'est un personnage qui a réellement existé, hein, du coup, et qui était un jeune leader chrétien. Et en fait, ils l'ont complètement détourné. En fait, ils se sont vraiment éloignés du vrai personnage.
Donc, contexte historique, à ce moment-là, il est censé être mort et il ressuscite ou un truc comme ça.
C'est exactement ça, en fait. Il ressuscite et il décide de se venger des gens qui l'ont trahi, grosso modo.
J'ai un hamster qui court derrière moi, ça me perturbe.
Surtout que si tu voyais les grimaces qu'il te fait en plus. Mais bon.
D'accord. Est-ce qu'on a fait le tour du roster?
Ouais.
Eh ben dis donc, quand même, quoi.
Une heure et quart.
Ah ouais.
Non, pardon, j'ai une bêtise.
1h20. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, histoire de conclure, ou est-ce qu'on s'arrête là? Parce qu'on a quand même bien décortiqué un peu tout le gameplay. Il y avait du poulet, il y avait des faucons.
C'est un jeu qui introduit énormément de choses, mais c'est un jeu qui, dans sa construction...
Je pensais qu'on ferait plus court.
Et qui reste malgré tout très classique. Pour le premier épisode en tout cas, dans son approche du jeu de combat. Et il va falloir attendre les développements sur les autres épisodes pour voir émerger des choses beaucoup plus originales et surtout beaucoup plus différenciantes par rapport à d'autres jeux de combat de l'époque.
On peut peut-être dire aujourd'hui que c'est un jeu qui a vieilli quand même par rapport à d'autres épisodes de la série qui sont vraiment complètement jouables aujourd'hui. Le jeu est vraiment... on parlait tout à l'heure d'Art of Fighting. On est dans un jeu qui est au niveau du gameplay qui est sans concession. Il faut faire les vrais mouvements pour...
pour que les coups sortent.
Il est quand même, il est sans concession, mais il est pas si rigoureux.
Que... c'est pas Art of Fighting.
Il est relativement rigoureux quand même.
Mais il est mais le premier quand même.
Un peu moins que d'autres à l'époque. Bah,
disons que la rigueur, elle se trouve vraiment, vraiment dans le placement. Vu que la rigueur demandée sur le placement, elle est tellement forte qu'il y a sur certains autres endroits où il y a eu quelques concessions.
D'accord.
Les sprites ont vieilli également quand on voit ce qui a été fait dans les versions après.
Malgré tout, quand tu joues sur émulateur avec le traitement graphique, souvent ça passe encore.
Mais je dis pas que ça passe pas. C'est un jeu qui a vieilli.
Ça vieillit, mais ça restait très riche pour l'époque. Hein.
Si on le compare, faut le comparer avec celui qu'on doit comparer au 4. Voilà, le 4 n'a pas vieilli pour moi en tout cas.
Hein, c'est, bah, le 2 a peu vieilli. Hein.
Ouais, mais voilà, là je prends vraiment. Ouais, là, mais... on est arrivé au maximum. Le 4, voilà, je trouve qu'il a vraiment pas vieilli. Le 1, il a pris un coup de vieux.
D'accord. Mais j'ai une question quand même, parce que moi j'ai quand même l'impression qu'il ajoute énormément de choses quand même, Samurai Spirit Saint. Et vous êtes en train de me dire, ah, ça reste classique, c'est gentil. Bah, ouais, enfin, il y a des armes, il y a du clash, il y a du poulet.
Quand on va parler du 2, enfin, il y a.
Voilà, ouais. C'est rétrospectivement, en fait, il a posé les bases pour un nouveau genre.
C'est parce que je connais pas le 2 que ça me paraît énorme en fait. Quoi.
Voilà. Voilà, il a vraiment posé les bases. Et en fait, la claque qu'on se prend dans le 2, c'est que. Par un jeu qui a posé des bases, l'autre va rajouter tellement de choses que ça va vraiment rester comme un des, sinon peut-être le jeu de combat avec le plus d'éléments de gameplay de tous les temps.
D'accord.
Et le 2 aujourd'hui est encore une référence. Oui. C'est pour ça que c'est lui que tu as vu qui redébarquait sur le Xbox Live Arcade. Et, c'est un jeu qui apparaît souvent dans des compiles et autres. Donc aujourd'hui, parmi des... Comme on te dirait que la référence, c'est le deuxième épisode. Pour beaucoup, chez Samurai Shodown, c'est le deuxième épisode qui est une référence.
Même bon, si on va dire que ça dépend des joueurs, mais oui.
Parce
qu'ils
apportent beaucoup de choses, ouais. Mais le 2 reste une référence.
En gros, le 2 et le 4 sont ceux qui, à chaque fois, on atteint un pic. C'est pour ça que...
Quand on parlait des World Heroes et qu'on disait que les trois derniers étaient toujours des jeux qui étaient joués, pas par le même public, mais qui étaient toujours joués à l'heure actuelle, grosso modo, c'est un peu ça.
D'accord, ok. Bon, bah écoutez, si on a tout dit, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier podcast sur Samurai Spirit. On devait parler du 2 pendant 7h15.
Non, on va faire un truc, on va laisser tomber, parce que quand on parle d'un jeu, il faut tout poser, ça nous prend à chaque fois.
Ça nous prend beaucoup de temps de poser les séries, mais bon, au moins la base est faite, on va dire.
Bon, il nous aura fallu 10 podcasts pour le comprendre. Mais
maintenant, oui, on peut peut-être se souhaiter un joyeux anniversaire, du coup, si c'est le 10e.
Ah bon?
Bah, joyeux anniversaire, bah, 10, ça se fête, non?
Non, 18. 10, attends, 18.
Ah bon, 18, ça se fête pas? Bon,
dans ce cas, ça se fête tous les podcasts. Bon,
on fait la fête à chaque podcast, on ne vous le dit pas. Mais...
Exactement, on fait la teuf et tout comme ça. D'ailleurs, je vais rentrer chez moi. Allez, salut. Bon, bah, merci de nous avoir suivis. C'était fort intéressant. Merci, messieurs.
Avec plaisir.
Et puis, c'est de bien. Une fois de plus, j'ajoute un poulet à mon héritage culturel bastonique, après celui de Tekken qui me hante depuis des années. On espère que ça vous a plu d'en apprendre beaucoup plus sur cette série. Donc, on fera un second podcast sur le deuxième épisode, et je pense que de toute façon on aura aussi besoin d'une bonne heure et quart pour en parler.
Mais est-ce que ce sera le prochain podcast?
Je ne pense pas que ce sera le prochain podcast.
Est-ce qu'on ne va pas parler de Darkstalker la prochaine fois?
Il y a des chances qu'on parle de Darkstalkers, en effet. Je pense qu'il va falloir y venir. D'ailleurs, je pense que ce serait bien le timing, même en termes d'actualité, en 2012-2013.
Potentiellement.
Il faut en parler, parce qu'on va réarriver vers un mouvement de Darkstalkers.
Ou pas. On verra. Mais en tout cas, nous, on en parlera quand même, parce que c'est quand même une licence absolument fantastique. Voilà. Et méconnue, parce que souvent, les gens connaissent la série de noms, mais...
Forcément, c'est un jeu avec une femme chat. Voilà.
Et ben, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur Bagro.fr comme d'habitude pour de nouvelles aventures, de nouveaux podcasts.
N'oubliez pas les toasties toutes les semaines. Exactement. Pour l'actualité.
Et puis, à bientôt. À très merci bientôt. De nous avoir écoutés.
Au revoir.
Ciao.